Rabbaralia.
Batiafa.
Batiafa, Hashem Ishlach la Refoua Shlema, Gam Eliaou Ben Fibi. Et Gam Shinaoura Bat Mazal Tov. Et Gam Shmuel Ben Sophie Mesaouda. Et tous les Cholam ou Israël, Rabbi Nissim Ben Mazal Tov. Yitzhak Ben Julia. Et Bezrat Hashem, que ce shiur soit pour la Refoua Shlema de tous les malades et les Nishmat, tous les Niftarim, Bezrat Hashem. Avram ben Shimon, Avi Mori Rabbi Mahlou ben Shabazora. Momi ben Simi, c'est Refoua Shelema, Kadosh Baruch Hu, qui lui donne une grande Refoua Shelema. Bonsoir à tous, mes chers amis, ma chère famille. Je suis un peu désolé de ce petit retard, mais je vous assure que j'ai beaucoup fait d'efforts pour arriver ici. C'est ce soir le mariage du fils d'un de mes rabbanim, un grand tzaddik qui s'appelle Rabbi Moshe Khaliwa. Et j'ai fait un grand effort pour venir avec vous parce que ça me tenait à cœur de ne pas rater cette rentrée. On m'a dit que c'était la rentrée de l'âme des nids, alors il fallait être présent pour pouvoir se réchauffer, se renforcer tous ensemble. Alors je suis très heureux d'être avec vous. Le réveil m'a libéré pendant une petite heure. Après je vais repartir là-bas au mariage, je vais dans Tachem pour faire cette mitzvah de Samer Khatan Vekala. S'il y en a qui ne sont pas mariés ici, par le mérite Bezrat Hashem de la mitzvah qu'on va faire tout à l'heure, qu'ils trouvent leurs e-book. S'ils sont mariés, qu'ils rêvent de marier. S'ils n'ont pas d'enfants, qu'ils aient des enfants. S'ils ont des enfants, qu'ils les amènent avec nous à la yeshiva. Bezrat Hashem. Voilà, je salue tous les amis du monde entier qui nous regardent ici. Ça nous fait un grand plaisir. Il y a mon frère, ma mère, toute la famille. Je sais, vous n'avez pas l'habitude de voir des gens qui rigolent comme ça au début et tout ça, mais on va s'habituer, vous êtes de la famille maintenant. Bezrat Hashem, ce soir, je suis venu... Exactement, on sort de Simchat Torah et justement on va faire un petit bilan sur ces fêtes et ce mois d'Eloul. Ce shiur s'appelle « Je veux vivre avec Hachem pour l'éternité ». Quand on sort de ce moment magnifique qu'on vient de passer, de ces périodes fastes du mois de Tishri, où on a vécu Rosh Hashanah, avant ça on a vécu le mois d'Eloul, après Kifour, après Sukkot, Shmini Atzeret et Simchat Torah, c'est des choses qui sont tellement merveilleuses. Et je pense que avant de pouvoir rentrer dans la nouvelle année avec Bereshit, il faut faire d'abord le bilan. Comme vous savez, la Torah, c'est un éternel recommencement. Et il y a souvent des personnes qui se disent, finalement, à quoi ça sert à chaque fois de recommencer les mêmes choses, de répéter les mêmes choses, de répéter les mêmes parachiotes et tout ça. On tourne en rond, finalement. Alors, il faut savoir une chose. Et c'est pour ça qu'on doit prendre sur nous de tirer des leçons de toutes les expériences qu'on doit vivre et vivre intensément tous ces moments magnifiques qu'Akadosh Baruch Hu nous a donné à vivre. C'est fait, si jamais on ne tire pas des enseignements et qu'on ne tire pas quelque chose pour être meilleur de ça et qu'on ne sort pas avec un chizouk, avec un renforcement spirituel, une élévation, on est passé à côté. On a traversé la fête, mais la fête ne nous a pas traversé, elle ne nous a pas changé, elle ne nous a pas modifié, on ne s'est pas élevé par rapport à cette fête-là. On n'a pas vécu intensément. Et un jour, il y a un Rav qui s'appelle Rav Benichou à Paris, un Rosh Yeshiva, qui était, vous allez voir que ce chidouche-là, il est d'un polytechnicien. Il y a deux façons de tourner en rond dans la vie. Il y a des gens qui tournent en rond et qui restent sur place. C'est les gens qui se disent, ouais, la Torah, à chaque fois, on revient, Bereshit, et tout ça, on refait tout le cycle de la Torah, et on revient, on se retrouve toujours au même point. Qu'est-ce que vous avez, qu'est-ce que vous êtes meilleur aujourd'hui? Quelqu'un, 50 ans, 60 ans, 70 ans, il étudie les mêmes textes, chaque année, il arrive au même parachute, vous n'en avez pas marre, vous n'avez pas envie de passer à d'autres choses. Nous, on est d'abord, on fait le DUG, après la maîtrise, après on fait la licence, la maîtrise, le doctorat, après on devient prix Nobel. On a une élévation, on n'étudie pas toujours les mêmes choses. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui n'a pas fait en sorte de travailler pour pouvoir s'élever et grandir par rapport aux enseignements. Il n'a pas fait corps avec les enseignements qu'il a étudiés. Il est en train de tourner en rond. Mais il y a une autre façon, Rabotaï, de tourner en rond. Il y a celui qui tourne en rond, mais quand il est en train de tourner, il tourne à la manière du délice, il s'élève. Chaque année où il est en train de faire ses akafot, il est en train de faire le tour de cette Torah Gdosha, qu'il est en train de faire les moindres sions, il est en train d'intégrer ces choses-là, il tourne, mais il s'élève et il se rapproche jusqu'à retrouver Akadosh Baruch Hu et s'attacher à lui d'une façon incroyable. Voilà la différence qui existe entre deux types de personnes qui tournent en rond. Ceux qui tournent en rond mais qui n'ont pas été transpercés et transformés par la Torah Gdosha, et ceux qui tournent en rond mais qui au contraire s'élèvent à la manière d'une hélice, à la manière d'un hélicoptère pour s'attacher jusqu'à Akadosh Baruch Hu. Et Bezrat Hashem, que par le mérite de notre tshuva et que le mérite de notre étude, où on va vouloir étudier dans le but de pratiquer ce qu'on va parler ce soir, alors on aura le mérite pas de tourner en rond et de se retrouver les mêmes. Dans 70 ans, on va se retrouver de ça quand on sera là-bas. Peut-être on sera à côté dans la maison là-bas de retraite et tout ça. Vous allez venir avec nous, moi je vous y raconterai les histoires et tout. On sera les mêmes. Non, on sera pas les mêmes. On se sera élevé, on sera encore beaucoup plus proche d'Akadosh Baruch Hu parce que toute notre étude, elle était pour faire qu'il y ait une élévation et qu'il y ait une pratique. Le Ramban nous explique dans une lettre magnifique Il dit, chaque fois que tu étudieras une session de Torah, tu feras en sorte que quand tu te lèveras, tu te demanderas, qu'est-ce qui fera de toi un homme meilleur que ce que tu étais quand tu es rentré? Vous savez, quelqu'un, il peut arriver toute sa vie, il étudie, toute sa vie, il écoute des choses, mais si jamais il ne se sent pas concerné, si jamais il ne s'assoit pas quand il arrive chez lui, qu'il est seul, plus avec ses amis, il se dit, voilà, ce soir on nous a parlé, ce soir on s'est renforcé, on s'est réveillé, mais qu'est-ce qu'on va prendre sur nous pour être meilleur? Rabotai, ça s'appelle qu'on a tiré profit d'une lumière extraordinaire, mais que nous n'avons pas rendu à Kadosh Baruch Hu cette lumière qui nous a réjoui, notre Neshama. La Torah, c'est le plus beau cadeau, c'est le trésor le plus précieux du monde, c'est la lumière la plus réjouissante qui peut ennoblir la personne, qui peut la rendre tellement meilleure, qui peut tellement la transcender et la rapprocher tellement de son Créateur. Mais si jamais on étudie comme des universitaires qui ne font pas corps avec leurs choses, ou comme des prêtres qui disent « fais ce que je te dis, mais ne fais pas ce que je fais », alors on veut passer toute notre vie à côté. C'est pour ça que maintenant qu'on vient de passer cette période merveilleuse des fêtes, on doit prendre sur nous un bilan, on doit se dire par où on est passé, quels sont les chemins par lesquels on est passé, et prendre sur nous des décisions pour pouvoir aborder cette nouvelle année et c'est sous des meilleurs auspices et dans un rapprochement avec Akadosh Baruch Hu Bezrat Hashem. On voit qu'une question se pose, les Mefarshim, les commentateurs demandent la question, comment se fait-il que la fête de Rosh Hashanah, elle est avant la fête de Yom Kippour, puisqu'on a commencé des fêtes de Tishri avec la fête de Rosh Hashanah qui est la fête du Nouvel An, comme vous savez, c'est l'anniversaire de la création du monde, comme on dit à Yom Harat Olam, c'est le jour de la création, de l'anniversaire de la création du monde, c'est quelque chose de tellement merveilleux. On est en train de nous juger chacun des hommes, et Akadosh Baruch Hu, il juge chacune des créatures qui existent dans ce monde, il est en train de la juger par rapport à l'élévation et au renforcement qu'elle a pris par rapport à l'année précédente dans laquelle elle a vécu. On est en train d'aborder ce nouveau moment. Alors si jamais on dit qu'on aborde ce nouveau moment, c'est un moment de jugement. Et 10 jours plus tard, après les 10 jours de Tshuva, il y a la fête de Kippour. La fête de Kippour, c'est la fête de l'expiation des fautes du Ham Israël. Et nos commentateurs nous demandent une question évidente. Normalement, on aurait dû d'abord demander pardon à Kadosh Baruch Hu, et dans un second temps se faire juger. Comment quelqu'un peut avoir l'audace et le toupet de se présenter avec Akadosh Baruch Hu le jour du jugement sans avoir d'abord au préalable demandé pardon? Il doit d'abord faire bonne figure devant le roi, d'abord faire bonne figure devant le maître et devant le juge et lui dire voilà, j'ai beaucoup de volonté de bien faire et de mieux faire. Une fois qu'il a demandé pardon le jour de Kippour, alors il peut se faire juger, il sera jugé sous des meilleurs auspices et il pourra réussir son année. Puisque tout est décidé le jour de Rosh Hashanah, tout ce qui va nous arriver pendant l'année, ça va être décidé. Est-ce qu'on va être scellé dans le livre de la vie ou de la mort? Est-ce qu'on va avoir de la parnassa? Est-ce qu'on va se marier? Est-ce qu'on aura une hatzlacha avec nos enfants? Est-ce qu'on aura de la réussite avec les gens qui sont autour de nous, dans notre business, dans toutes les choses? Combien on va réussir à nous approcher d'Akadosh Baruch Hu? Tout est décidé en ce moment-là. Alors pourquoi on n'est pas d'abord passé par ce moment de Yom Kippour et par la suite on est parti à Rosh Hashanah? Pourquoi on a commencé par Rosh Hashanah? Dans le même état d'esprit, on peut se demander une question, quelque chose d'assez incroyable. Vous savez que le jour de Rosh Hashanah, on vient de le dire, c'est la fête du trône. Et vous savez, les avérotes que quelqu'un y fait dans sa vie, elle le part d'un habit plein de boue, à la manière de Beethoven, le marboule, le chien. Vous le rappelez, le chien, là-bas, quand il s'est roulé dans la boue? Je savais que vous attendiez pas à cette fin-là. Ça fait plaisir, je vous ai ramené un peu à quelques années en arrière. Le chien, il se roule dans la boue, c'est Mzrop, là-bas. Vous voyez, il est plein de boue après. Et après, son patron, il vient là-bas avec le tuyau, il lui met, dis-nous-moi, t'es en train, tu lui mets comme il faut le tuyau, jusqu'à ce qu'il se... On t'attendait, ça nous a fait plaisir de te voir. Prends place, mon salut. C'est magnifique. Alors, vous m'entendez, le Beethoven, on est en train de lui prendre le tuyau et on est en train de l'arroser. Rabotai, il a le jour de Kippour, ça s'appelle une douche revivifiante à l'esprit, à l'extrait de Jojoba. Comme dans Ushuaïa Nature, et vous connaissez. Je savais que vous attendiez pas à celle-là, encore moins. Avec Nicolas Hulot et le sien. On lui salue si jamais il nous reçoit sur son bateau là-bas avec son Blueberry là-bas, il est connecté. Vous comprenez, les gars, c'est le Blackberry, moi, c'est le Blueberry, moi j'aime bien l'appeler comme ça, c'est pas grave. Vous m'entendez, Rabotai? Le jour de Kippour, c'est une douche. Le gars, il s'est douché, il s'est pris une douche pleine de lumière, pleine de tchouva, il s'est lavé son habit. Ce marboule là-bas, il arrive le jour de Rosh Hashanah pour faire la fête du trône avec un habit plein de boue. Il dit, est-ce que c'est pas un zilzoul, est-ce que c'est pas un mépris par rapport au roi de venir avec un habit plein de boue? Habibi, d'abord tu fais tchouva, tu laves tes habits avec la tchouva, avec Yom HaKippurim. Ki bayom azeh, chaper alechem, v'taher etchem, mikol chatotechem, Titaru, Akadosh Baruch Hu, il va te purifier de toutes tes choses, de toutes les mauvaises choses que tu as fait par la tchouva, que tu as fait par les tachanim, par les supplications que tu lui envoies. À partir du moment où tu as demandé pardon, tu viens avec ton bel habit le jour de l'intronisation du roi, et là tu peux le louer, là tu as une face et tu t'es bien présenté devant lui avec un beau costume, avec une belle cravate, avec des beaux vêtements, mais n'arrive pas avec tes habits de jardinier là-bas. Le marboul du jardin municipal, il arrive, le gars, Habibi, d'abord tu passes chez toi, tu te mets le smoking et tout ça, et après tu viens à la fête du trône. Alors pourquoi cette fête de Rosh Hashanah, elle a devancé la fête de Kippour? Normalement on aurait dû d'abord faire Kippour, on se lave nos habits et après on fait la fête d'intronisation du roi. Je savais que ces questions, elles allaient vous rendre marboule. Hein. J'espère que vous avez bien vécu. Moi, quand je les ai entendus, je suis devenu un peu marboule et je me suis roulé par terre. Mais je vois que vous avez... Là, ça vous fait plaisir. Je vois que ça vous a fait plaisir, ces questions-là. Mais vous voulez pas trop le dire au début et tout ça. Alors, écoutez bien, écoutez bien. Une autre question qui se pose, ça, c'est une question encore plus difficile à répondre. C'est une question que moi, quand je l'ai entendue de mon maître Rav Yosef Ben Tata de la Yeshiva d'Or HaChaim à Yerushalayim, quand j'étais là-bas, ça m'a fait frémir tel un poisson blanc. Écoutez bien cette question. Pendant les 10 jours de Tshuva, ma reine, notaire du Shulchan Aruch, Rabbi Yosef Karo, vous voyez qu'il y a des oiseaux qui sont là, comme un oiseau bleu même, on peut dire. Ma reine, l'auteur du Shulchan Aruch, dit que pendant les 10 jours de Tshuva, un homme doit faire en sorte de se renforcer, de faire Tshuva sur des points qui sont assez insolite. Il nous dit, Maran, que si quelqu'un il avait l'habitude de manger du pain qui était de Bishul Goy, le Bishul Goy c'est une cuisson des Goyim, alors il fera attention de manger du pain qui est de Bishul Israël, qui a été cuit par des Bnei Israël. Pourquoi? Parce qu'il y a une mesure de piété à manger du pain. On sait que les Chachamim ont institué une loi pour faire en sorte qu'il n'y ait pas d'assimilation dans le peuple d'Israël, qu'on n'a pas le droit de manger des plats qui ont été cuisinés par des goïms. Pour ne pas, le gars il va se dire, si jamais je me marie avec Francine ou Françoise, ça va, Jean-Françoise, la duchesse de Ségur, la comtesse, hein, vous vous rappelez d'elle, je pourrais pas, elle va pas me faire la cuisine à Sraouya ou la cuisine à Msouya, moi je vais devoir les cuisiner, comme le gars il préfère qu'on lui passe un bon plat et qu'il reste chez lui tranquillement, alors il va pas faire une bonne affaire avec elle. Alors puisqu'il va se dire, attends, tu te rends compte, elle n'a pas le droit de me faire des plats, alors ça va le retenir et ça va le tenir à distance de cette femme-là, il va pas se marier avec elle. Mais il y a... J'avais jamais vu des oiseaux dans un hôtel, franchement. Ça fait plaisir, dans un bétaminera, j'en ai vu quelques-uns à Bnevrak, mais dans un hôtel, c'est assez insolu. Incroyable, ça fait plaisir. C'est peut-être un Gilgoul, une réincarnation d'un être qui est venu. Vous m'entendez? Il dit en tout cas, l'auteur du Shulchan Aruch, il est venu et il t'a dit donc que tu devras faire attention. Il y a une tolérance dans la Torah, que puisque c'est difficile de manger du pain qui a été cuit que par des Bnei Israël et que chacun va faire la challah et tout ça avec les mains, on va faire beaucoup de travail. Là, on a donné une tolérance qu'on a le droit de manger, bien sûr, si la composition, il n'y a pas de l'huile de porc dessus, parce que parfois il y a de la présure animale dans les baguettes et tout ça, les baguettes sur plaque et tout ça. Si jamais la composition est kshéra, on a le droit de manger du pain qui a été fait par des goïms. Mais par contre, pendant ces 10 jours de tshuva, l'auteur du Shulchan Aruch nous dit qu'il faut avoir une mesure de piété et ne pas manger du pain qui a été fait par les goïms, que manger du pain qui a été fait par les Bnei Israël. Une autre chose, c'est le chalav nochi, le lait qui n'a pas été surveillé. On sait qu'il y a un dîme dans la Torah de boire du lait qui est surveillé. Mais on sait que si jamais, pourquoi? Parce que de peur qu'on vienne à mélanger le lait de vache avec le lait de truie. Vous savez, ce qui sort de quelque chose de pur, c'est pur, et ce qui sort de quelque chose d'impur, c'est impur. Si jamais on te fait du lait de chamelle ou du lait de truie, qui est la femme du halouf, ouais, et bien cette femme-là, elle n'est pas cachère, donc ce qui sort d'elle, c'est pas cachère. Donc de peur qu'on en vienne à faire cette assimilation entre ces deux laits qui sont interdits, alors la Torah dit il faut faire attention de ne pas rentrer dans ce problème. Mais si jamais tu as une assurance, comme aux États-Unis, que la législation est tellement draconienne et tellement difficile, que tu sais qu'il n'y aura jamais de mélange entre ces choses, parce que si jamais on découvre ça, ils vont leur fermer l'entreprise et ils vont avoir une amende, ou jusqu'à les dernières générations, jusqu'au machère, les gars ils devront payer même, il va s'endetter pour plusieurs générations. Alors là, à ce moment-là, certains Chachamim permettent de boire ce lait. Ceci étant, Rabbi Yosef Karo nous dit que pendant ce moment-là, des 10 jours de tshuva, l'homme devra faire attention à ne pas rentrer dans cette mesure de tolérance, il devra avoir une mesure de piété de ne pas boire ce lait, même si jamais il est convaincu qu'il peut ne pas y avoir de problème de surveillance. Rabotai, on doit se poser une question ici. Comment c'est possible que nos Chachamim sont venus nous demander des mesures de piété alors qu'on a tellement d'autres choses à faire tshuva? On est tellement loin de ça. Il y a tellement d'autres choses sur lesquelles on devrait travailler. Quoi, toi, du jour au lendemain, t'es venu faire des travaux sur quelque chose d'un sadique qui est sodolame là-bas, le Baba Salé. Le type, il est devenu Baba Salé du jour au lendemain. Il fait plein de choses qui ne sont pas conformes, mais il va faire, tu vois, sur des gens les plus élevés de la hiérarchie dans les Talmidei Chachamim et les Tzadikim et tout ça. Mais Khabibi, il fait d'abord les choses qui sont à ton niveau. Qu'est-ce que tu vas commencer à chercher à faire des mesures de piété avant d'avoir corrigé les. Je savais que ça allait te plaire cette question-là. Moi, quand je l'ai entendu, je suis devenu ma boule. Alors, ça, c'est une autre question. Abou Daï, pour répondre à cette question, on a l'habitude toujours de poser des questions. C'est comme ça qu'on a, nous, les barbichés, surtout les jeunes barbichés avec le style et tout ça, avec costume à l'américaine et tout ça. C'est moi. Je sais, vous pouvez me retrouver sur www.toradelumière.com. Parce que j'ai mon site internet avec ma face en 3D, tout ça, j'ai tous mes chiourines. Et j'ai aussi un livre magnifique. Je sais que la dernière fois que je suis venu, c'est pour ça que je suis venu avec 3 caisses de 20 livres. Et je suis reparti avec un livre en moins, qu'il y avait un tzadik là-bas dans la salle qui m'a acheté. Je me suis fait un limbago. Alors maintenant je suis venu avec 2 livres et je sais que vous allez vous disputer. Et la prochaine fois que je viendrai, alors tout le monde y viendra avec, armé avec plein de billets de ça, ils vont tous se disputer pour avoir les livres. Je connais les coups de marketing rabotaille. Là-bas vous pouvez commander sur ce site, là-bas www.toradelumière.com, ce livre magnifique que nous avons écrit avec l'aide d'Akadosh Baruch Hu. Moi j'ai fait comme ça, et lui il a fait comme ça. Pendant des nuits durant, grâce à ma femme, c'est une grande sadéquette, la première année du mariage, je dormais pratiquement jamais tout ça, parce que j'ai perdu mon papa à la Vachalom, c'était un grand sadique. Et pendant qu'il est parti, mon papa, j'ai voulu faire un livre à sa mémoire, j'ai écrit toutes les parachutes avec les grands Gdolim de la génération, des grands tzadikim qui m'ont transmis des shiurim. Je les ai travaillés, je les ai écrits pour les faire partager au public francophone. C'est vraiment quelque chose d'incroyable. Ça s'appelle « Quelques gouttes de lumière pour l'éternité ». Donc je vous disais en tout cas que cette sira-là, il y a quelques points qui sont là-bas. Je vous ai expliqué que pour répondre aux questions qu'on vient de poser, les 3 questions, on va poser des questions. Vous savez, il y a une histoire dans la Torah, hein, la Gemara dans Maseret Avodah Zara, à la page 17, folio 1. Je crois que c'est en bas de la page, si je me rappelle bien, mais on pourra vérifier ensemble si vous voulez après ça. Je sais qu'il y en a qui sont des grands connaisseurs ici de la Gemara, alors je préfère pas faire le malin avec vous, on va regarder ensemble. C'est à la page 17, folio 1. Là-bas, on nous a rapporté une histoire dans cette Gemara, hein, d'un homme qui s'appelait Eliezer ben Dourdaya. Cet homme-là, c'était l'homme le plus perverti du monde. Il faisait beaucoup d'avérotes. Dans le domaine des relations interdites, c'était le numéro 1 mondial. Chaque fois qu'il y avait une nouvelle prostituée qui voyait le jour dans le monde et qui venait sur le marché, malheureusement ce marché obscur du commerce du corps, qui est devenu malheureusement chose commune aujourd'hui, eh bien celui-là, il traversait tous les océans et toutes les mers et tous les pays pour aller découvrir cette nouvelle partisane. Jusqu'au jour où il a tellement eu de relations interdites qu'il y a une femme qui lui a fait la morale. Elle lui a dit, toi Eliezer ben Dourdaya, ben Dourdaya, ça vient du lachan Midarder. Midarder, ça veut dire celui qui s'est dégradé, qui a dégradé sa personne. Il lui a dit, toi, tu es tel. Il y a eu un vent qui est passé à ce moment-là quand il a eu la relation avec elle et tout ça. Il lui a dit, toi, Eliezer ben Dourdaya, de la même façon que ce vent ne reviendra jamais, hein, de la même façon, ta tchouva ne sera jamais acceptée dans le ciel. Toi, tu as disparu, déjà, tu es fini. Alors lui, il a commencé à se dire, c'est pas possible. Même cette fille de petite vertu et de mauvaise mœurs, elle vient me faire du moussard. Elle vient me faire de la morale, alors que elle, c'est censée être la fille la plus pervertie du peuple. Et moi, regarde, je suis une neshama Kdosha et Teora, qui est la neshama d'Akadosh Baruch Hu. J'ai une neshama qui descend du Kissa Kavod, qui descend du trône céleste. Et moi, cette femme-là, elle va venir me faire des leçons de morale. Il a commencé à être brisé, il s'est dit, ça y est, à partir d'aujourd'hui, il faut que je revienne vite Tshuva. Il a commencé à demander l'aide à tous les êtres de la création. Shamaim ve'aretz, bikshu rachamim alai, dit la Gemara. Le ciel et la terre, demandez miséricorde auprès d'Akadosh Baruch Hu pour moi, parce que je sais que j'ai tellement fauté que moi-même je ne pourrais pas demander pardon à Hachem. La terre et le ciel lui ont dit, jusqu'à ce que nous demandions miséricorde pour toi, il faut qu'on demande miséricorde pour nous parce qu'on a des comptes avec Akadosh Baruch Hu, on n'est pas en très bon terme avec lui, il faut qu'on se fasse pardonner. Débrouille-toi tout seul. Après il a demandé le ciel, le soleil et les étoiles, la lune. Venez demander de la miséricorde pour moi. Ils ont dit, on ne peut pas, on doit demander d'abord la miséricorde pour nous. Après, il a dit, les étoiles, Kochavim, Bikshu, Achaim, Alay, on ne peut pas demander miséricorde, il faut qu'on demande pour nous. Il a note, il a demandé aux arbres, venez intercéder en ma faveur, demandez à Kadosh Baruch Hu qui me pardonne, je vous en prie. Il était tellement triste de se retrouver dans cette situation tellement embarrassante, quand il a pris conscience à quel point il était tombé. Il a vu que personne ne pouvait lui répondre. À ce moment-là, quand il a vu qu'il était seul, il s'est retrouvé confronté à ce Pirkei Avot qui a dit « Il est la Zaken » dans le Pirkei Avot, le premier chapitre des Maximes des Pères. Je crois que c'est le 12e ou le 14e, je crois que c'est le 12e. « Il est l'Omer Imen Anilimili. Si jamais je ne suis pas pour moi, alors qui le sera ? Si jamais moi je ne viens pas me défendre, personne ne pourra me défendre à ma place. Rabotai la Tchouva, c'est nous. Personne d'autre ne peut faire Tchouva à notre place. » C'est nous qui devons nous défendre devant Akadash Baruch Hu, c'est nous qui devons faire tchouva, qui devons pleurer, qui devons verser notre cœur devant Hashem Yitbarach. Personne d'autre ne peut faire quelque chose à notre place. Sache une chose, Bishvili Nivra Olam, le monde entier il a été créé pour toi. La Gemara dans Sanhedrin a dit pourquoi chaque face de chaque élément de la nature, deux fourmis, elles ne se ressemblent pas l'une l'autre. Si jamais tu l'analyses au microscope, tu peux voir qu'elles ont des similitudes, mais elles ont aussi des différences. De même façon, deux faces, deux visages ne se ressemblent pas, tu ne pourras jamais trouver même deux vrais jumeaux. Tu ne pourras pas trouver deux vrais jumeaux qui n'ont pas aucune dissidence entre eux pour te dire que Bishvili Nivra Olam, le monde entier il a été créé pour moi. Si jamais moi je justifie ce pourquoi le monde il a été créé, alors le monde entier il méritait d'être créé, mais sans ça le monde il n'aurait pas mérité d'être créé. Rabotai, il est arrivé à ce stade là où il a vu que personne d'autre ne pouvait faire tchouva pour lui. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a mis sa tête entre ses jambes et il a commencé à verser des larmes devant Akadosh Baruch Hu. Plus il pleurait, plus il prenait conscience de l'impureté et la pourriture dans laquelle il s'était trempé et dans laquelle il avait vécu pendant toute sa vie. Combien il avait de tsar, de voir comment il s'était éloigné de son créateur, jusqu'à ce qu'il a pleuré tellement fort à Botaï que sa neshama est remontée au ciel. Il est niftar sur place, il est mort sur place à la Makom. Yatsa bat kol, une voix céleste est sortie, nous dit la Gemara dans la suite. Rabbi Eliezer ben Dourdaya Mouzman le Chayol Amaba. Rabbi Eliezer ben Dourdaya, il est invité dans le monde futur. Nous dit Tosfot, dans un endroit du chasse, dans un endroit de la Gemara, ça veut dire quoi? Mouzman le Chayol Amaba? Ça veut dire Blidin Vecheshbon. Ça veut dire qu'il n'est pas jugé. Il arrive directement sous le Kissé Akavod, sous le trône céleste, sans avoir honte, sans qu'on lui fasse le film de ce Mzrob là-bas, de Spielberg là-bas. Ici, on était content de voir Spielberg, ce Mzrob. Là-bas, on va avoir honte que Spielberg, il est venu nous filmer toute la vie et tout ça, dans le loft et tout ça. Il nous a dit, regardez ce qu'il a fait pendant toute sa vie. Là-bas, on te pose un film de toute ta vie, Habibi. On est en train de te dire, regarde par tout ce que c'est ch'touillot que tu as fait. Si tu fais tchouva, on ne te montre pas de film. Mouzman le Chayol Amaba, ça veut dire qu'il est blidin vechejban, il ne passe pas au Geinam. Il n'a pas besoin de réparer les choses, il arrive directement Kadosh et Taor, comme une neshama qui n'a pas fauté. Là-bas, Rabbi Bacha Rebi, il y avait Rabbi Yehuda Nassi, le maître de la génération qui était sur place. Rabbi, c'était un tzadik et sodolam, Rabotai. La Gemara, elle dit dans Maseret Ktuvot, Daf Kuvav, à la page 106. Rabbi, quand il a quitté le monde, il a dit, mais il dit, Malay Shamaim Varetz, me sont témoins le ciel et la terre, Shekol Yemechayai, Lonenti Mina Olamaze, Afilu Betzbaktana. Chaque jour dans ma vie, je n'ai jamais profité de ce monde-là, ne serait-ce que du petit doigt que j'avais. Rabbi Eliezer Ben Dourda, qui a fait tous les plus grands avérot, il s'est élevé au stade de Rabbi, et Rabbi, il a pleuré, il a dit, Yeshkone Olamo Beshahat, Yeshkone Olamo Beshkamashahot. Il y en a qui acquièrent leur part au monde futur en un instant, en un instant de volonté de tchouva, en un instant de volonté de se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu. On peut effacer toutes les avérotes qu'on a fait et se retrouver sous le Kissé HaKavod avec Akadosh Baruch Hu en ligne directe. Et il a dit encore Rabbi une autre phrase, l'Odayam les balais tchouva chez Mekabli Motamela chez Karoula Emrebi. Ça suffit pas pour les balais tchouva, les gens qui reviennent à la tchouva, qui se repentent devant Hashem Yitbarach d'un cœur sincère parce qu'ils ont fauté, qu'on les reçoit Bitchouva. Et là chez Karoula Emrebi, mais en plus on les appelle Rabbi. Parce qu'on ne l'a pas appelé Eliezer ben Dourdaya Mouzman le Chayol Amaba, il l'a invité au monde futur. On l'a dit Rabbi Eliezer ben Dourdaya, parce qu'il a montré que même quand quelqu'un il est enfoncé dans le plus bas point, dans la plus grande pourriture, à chaque instant de sa vie, il peut se rapprocher si jamais il a une volonté de faire tchouva à Kadosh Baruch Hu, il accepte. C'est ce qu'il a enseigné. Et il a enseigné que ça ne dépend pas de la valeur, du temps qui passe et des années. Ça n'attend pas les années, Rabodayan Sadiq. Quelqu'un qui décide et qui prend sur lui une akhlata, Broura, une décision ferme de devenir un tzaddik, de faire teshuva chez les mains, de se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu, et bien à partir de ce moment-là, il a pris cette décision, ben il est considéré dans le ciel comme un grand tzaddik et sort de l'âme. Et
je suis pas d'accord, hein. Un violeur pédophile, ça passe pas.
Un violeur pédophile?
Non, c'est pas rachetable,
ça. Enfin, lui, je pense pas qu'il a fait de la pédophilie, Rabbi Eliezer Ben Dourdaya.
C'est pour ça qu'on ne peut pas comparer, là-dessus.
Généralement, des gens qui ont fait des avérotes qui sont très, 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 très graves, qui sont de l'ordre. Il y a des gens qui ont fait des avérotes tellement graves qu'il y a des choses qui sont pas. Il y a des contradictions dans la Gemara et dans le Zohar à Kadosh. Le Zohar, il dit que toutes les avérotes, elles sont réparables. La Gemara, elle dit qu'il y a des avérotes qui ne sont pas réparables. Parfois, la mort, elle expie les fautes. Ça veut dire que le type, quand il a fait une chose pareille, il est passible de la peine de mort. Donc le type, c'est sûr que si jamais il s'est repenti, on n'est pas à la place d'Akadash Baruch Hu et on ne sait pas comment Akadash Baruch Hu il juge le monde et tout ça. Mais le gars, il doit quitter le monde pour les fautes qu'il a fait, pour ne pas qu'il récidive et pour ne pas qu'il fasse d'autres choses et tout ça. Donc la punition qu'il a fait, ça peut être une expiation. C'est sûr que la place qu'il aura, elle sera en fonction du repentir. Et généralement, quelqu'un qui a fait des fautes tellement graves, on ne lui donne pas dans sa main de faire teshuva. Akadash Baruch Hu, il a dit, c'est tellement perverti. Mais des gens qui ont fait des fautes qui ne relèvent pas de ce domaine-là, tellement graves, c'est des relations interdites, c'est très très grave. Nous, on ne voit pas avec nos yeux. Mais il faut savoir que c'est des choses qui sont très 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 graves dans le ciel. C'est une des choses qui, comme on avait dit dans le premier shiur pour ceux qui étaient là, qui repousse la Shekhina, qui enlève le bouclier protecteur d'Akadosh Baruch Hu du peuple d'Israël, c'est les relations interdites, c'est quelque chose de terrible. Malgré tout, cette faute la plus grave qui est considérée aux yeux d'Hachem comme quelque chose de très grave, on voit que Rabbi Eliezer ben Noé, par la tchouva sincère, il a pu effacer cette faute-là. Mais c'est sûr qu'il y a des choses qui sont tellement graves et tout ça que... Par rapport à l'homme, par rapport à Kadosh Baruch Hu, de toute façon, c'est quelque chose qu'on nous dit. Si jamais quelqu'un il fait une chose pareille, il est passible de la peine de mort, il le paye. Et ça, son paiement, parfois, ça peut constituer une expiation. Maintenant, en fonction de ça, tu vois, il peut retrouver une place. La faute, ça procure une expiation si jamais elle est accompagnée de la tchouva dans certaines mitzvot. Mais si je te dis, quelqu'un qui est capable de faire des choses tellement graves, généralement pour qu'il arrive à faire tchouva, c'est pas donné à tout le monde. Quelqu'un qui a fait tchouva, c'est quelqu'un qui est encore rattaché à Kadosh Baruch Hu d'une certaine façon ou d'une autre. Mais ouais. Quelqu'un qui s'est tellement perverti à ce point-là, généralement il n'a plus aucun lien et aucune attache avec Kadosh Baruch Hu. Mais c'est une bonne question, je voudrais bien me réfléchir. J'avoue que j'ai pas réfléchi à ce cas-là, j'aimerais bien d'être attaché à l'occasion à réfléchir. En tout cas, Rabbi Eliezer ben Dourda s'est élevé au niveau de Rabbi Yehuda Anassi, le maître de la génération qui n'avait jamais fauté dans sa vie. Alors la question qui se pose ici, comment un homme peut passer du plus grand perverti de la terre au plus grand tzaddik, qui est sort de l'âme du monde, en un instant. Une deuxième histoire qui est rapportée dans le Midrash Rabbah. Le Midrash Rabbah rapporte l'histoire d'un homme qui s'appelait Yosef Meshita. Yosef Meshita, c'était un homme qui était aussi il était très perverti, malheureusement. Il a fait des choses qui sont très très graves. Au moment de la destruction du Beth Amikdash, les Romains l'ont recruté dans leur armée pour rentrer dans le Beth Amikdash pour aller extirper des objets saints et des objets sacrés du Beth Kodesh HaKodashim, du Saint des Saints et du Beth Amikdash, de la maison d'Akadash Baruch Hu. Imaginez-vous la maison d'Akadash Baruch Hu qui est détruite. C'est quelque chose de très grave, c'est quelque chose qui fait beaucoup de peine. On voit le sang qui est badigeonné des porcs sur les parois de la maison d'Hachem Yitbarach. Il y a du feu, il y a des renards qui circulent dans notre lieu saint. Combien on est triste, combien on a de la peine de voir cette chose-là. Et là-bas, on prend un collaborateur et on lui dit de rentrer et d'aller chercher des objets saints et de les faire sortir. Quelqu'un qui fait une chose pareille, à nos yeux, il est considéré comme le plus grand mécréant et le plus grand criminel du monde. Et ça nous rapporte le Midrash Rabbah que cet homme-là, on lui a dit, allez, toi, tu vas rentrer, tout ça là-bas, tu vas nous faire sortir. La première chose que tu sortiras, elle sera pour toi. Toutes les autres choses que tu sortiras, elles seront pour l'empereur. Il est sorti là-bas, il n'a pas sorti n'importe quoi, il est sorti avec la menorah. Alors les gars, quand ils l'ont vu sortir avec la menorah, les Romains et tout ça, ils ont dit, attends, t'as poussé mémé dans les orties, comme on dit chez nous. Ils ont dit, ça c'est une dignité royale, ce que t'as. Ça c'est pour l'empereur. Va re-rentrer maintenant à l'intérieur et fais sortir une deuxième chose et la deuxième chose sera pour toi. Mais la première chose, on ne peut pas te la donner parce que c'est quelque chose de trop précieux et de trop cher. Ça, t'as pas le droit de prendre ça. Ils lui ont dit, allez, tu vas rentrer maintenant. Il lui dit, je rentre plus. Il dit, comment ça, tu rentres plus? Il dit, je rentre plus. Il dit, si jamais tu rentres, on va te faire devenir le plus grand dignitaire et le plus grand riche de toute l'armée romaine. Je rentre pas. Il dit, si tu rentres, tu seras le vice-ministre du roi. Tu seras le plus proche de l'empereur. Tu vas être le vice-empereur. Je rentre pas. Il a dit, Habibi, je vois que tu comprends pas le langage d'où. On va te parler avec le langage du bâton. Il lui a dit, si jamais tu rentres pas, je vais te donner Trehafras. Vous connaissez Trehafras? Jusqu'à ce que tu puisses plus savoir ou tu puisses même plus nous reconnaître. Ils lui ont expliqué ce qu'ils allaient lui faire à Bota. Ils lui ont dit, on va te prendre, on va te carteler avec des chevaux et on va te traîner dans la ville. Il lui a dit, écartelez-moi avec tous les chevaux de Ferrari et de Porsche et de tous les gens du monde, mais je ne bougerai pas, je reste ici et je rentre plus dans le Beth Amikdash. Les types, ils se sont dit, mais attends, mais celui-là, c'est un Maboul. Quelques secondes avant, il était prêt à rentrer dans la période la plus obscure de la destruction du Beth Amikdash, dans la maison d'Hachem pour aller voler les objets du temple et aller collaborer avec l'ennemi. Et quelques minutes plus tard, on lui propose les plus grands milliards du monde ont le plus grand kavod du monde. On le menace des plus grands issourim et des plus grandes souffrances qu'un homme ne peut pas endurer. Et lui, il dit, moi, je peux pas, je rentre pas, vous avez qu'à me traîner. Et Rabotaï, on l'a pris et on l'a traîné dans la ville. On l'a écartelé, on a écartelé ses membres. Et quand il était en train de rendre son échama à Kadosh Baruch Hu, il disait pas malheur à moi que j'ai fait tchouva et à Kadosh Baruch Hu, il m'a fait souffrir. Il a dit, Oili Sheikhasti et Bori, Oili Sheikhasti et Bori, malheur à moi qui ai énervé mon créateur, malheur à moi qui ai énervé mon créateur. Voilà où était la tête de cette sadique Yesod Olam quand il était en train de rendre sa neshama à Kadosh Baruch Hu dans une tchouva chez les mains extraordinaires. Encore un de Yosef Meshita, il s'appelait Yosef Meshita. C'est un deuxième sadique dans le Midrash Rama. On va poser la même question que pour Eliezer Ben Dourdaya. Comment cet homme-là, qui était le plus grand perverti de la terre, d'une seconde à l'autre, il a mérité d'être le plus grand sadique du monde et de monter avec Kadosh Baruch Hu, Bekidush Hashem, en sanctifiant le nom de Dieu, qui est la chose la plus extraordinaire de rendre sa neshama parce qu'il est né juif et parce qu'il n'a pas envie de commettre une avera. C'est le niveau le plus élevé qui répare toutes les fautes qu'un homme il a pu faire dans sa vie. Comment il peut arriver à, grand degré de proximité avec le Créateur? La réponse à cette question nous aidera à répondre aux questions qu'on a posées précédemment. Rabotaï, Eliezer Ben Dourdaya, quand il a commencé à faire tchouva, il a vu combien il était loin. Mais plus il se rapprochait, plus il sentait la proximité avec le Créateur et plus il voyait combien il avait perdu dans sa vie. Combien il avait été privé de cette proximité avec Hachem, qui est le plus beau sentiment d'une vie. La plus belle chose qu'on peut avoir, c'est de sentir le souffle d'Hachem sur son visage. Plus il faisait tchouva chez les mains, et plus il se rapprochait d'Hachem, plus il arrivait jusqu'à Kadosh Baruch Hu, jusqu'à ce qu'il a mérité que sa tchouva arrive à le rapporter jusqu'au Kissé à Kavod. C'est quelque chose d'incroyable et d'extraordinaire. Mais il a senti ce que c'est la grandeur d'être avec Hachem Yidbarach. Il a senti ce que c'est le mérite qu'on a de se rapprocher avec Hachem, d'être attaché à lui, de ne pas s'éloigner de lui, de nous attacher avec Hachem, Rabotaï, c'est quelque chose de merveilleux. Et Eliezer Ben Dourdaïa, on nous dit, le Mefarshim, le Rabbeinu Yonah, qui était un grand Rishon, un grand commentateur de la Torah, Rabbeinu Yonah nous explique quelque chose d'incroyable. Rabbeinu Yonah, il dit que comment on fait pour faire tshuva? Et pourquoi Eliezer Ben Dourdaïa a demandé au soleil, à la terre, à la lune, aux arbres d'intercéder en sa faveur? Parce qu'il s'est dit qu'il avait tellement fauté que lui ne pouvait plus de revenir Béchoua. Parce qu'il y a des fois où la faute, elle s'est tellement enracinée à l'intérieur de nous-mêmes que c'est pratiquement impossible de revenir. Mais c'est toujours possible de revenir à Bouteille. Jusqu'au moment où tu rends ton dernier souffle, tu peux revenir Béchoua chez les mains. Mais comment tu fais pour faire Béchoua? Pourquoi lui, il a senti qu'il ne pouvait pas? Parce qu'il faut que tu nous diras, Benou Yonah, il faut que tu aies la même itlavout, le même éveil spirituel dans la Béchoua et dans le regret des fautes que tu as commises que la jouissance que tu as procurée la Avera. Ça, c'est quelque chose qui n'est pas donné à tout le monde, Rabotaï. C'est quelque chose de très difficile. Quand tu vois la jouissance qu'une Avera, la jouissance illusoire, bien sûr, et la jouissance éphémère de ce monde, qu'une Avera te procure, ce plaisir éphémère et illusoire qui meurt et qui s'éteint en même temps que la finition de l'action qu'on a fait, de l'acte déviant qu'on a commis contre Akadash Baruch Hu. Et après, c'est marqué Rechaïm et Leim Haratot, les Rechaïm sont pleins de regrets et de remords. Pourquoi? Parce qu'ils sentent après combien ils ont fauté devant Akadash Baruch Hu et ils regrettent tout ce qu'ils ont fait. Il dit, mais combien tu as joui sur place au moment où tu as fait cette avéra? Eh bien, le regret que tu dois avoir pour faire tchouva, il doit être aussi puissant. Il s'est dit, moi j'ai tellement joui, j'ai tellement profité de ce monde que ma tchouva, elle n'est pas possible. Mais Rabotaï, plus il prenait conscience des fautes qu'il avait fait, plus il faisait tchouva, et plus il voyait comment c'est merveilleux de se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu, jusqu'à ce que sa neshama, Rabotaï, elle ne puisse plus rester dans ce monde. Sa neshama, Gdosha et Teora, elle voulait remonter à Akadosh Baruch Hu parce qu'elle n'avait plus aucun kesher avec ce monde-là, avec ce monde matériel. Comme on raconte sur un grand sadique, je crois Rabbi Yehuda Hanassi, il était obligé de se tenir à la table quand il disait des divrétrons parce que sa neshama, elle voulait remonter au ciel. Rabbi Shimon Bar Yochai Rabotaï, la dernière dracha qu'il a fait, qu'il est enterré à Méron là-bas et qu'il y a des milliers de personnes qui vont chez lui le voir, c'est un des plus grands sadikim du Ham Israël. C'est marqué là-bas, Ani le Dodi Ve'alai Teshukato. La dernière dracha qu'il a fait, c'est marqué que quand c'est le dernier divar Torah qu'il a fait, c'est marqué que par Maya Shel Mala, l'armée céleste, ils sont descendus pour entendre sa dracha à Rabbi Shimon Bar Yochai avant de rendre sa neshama. Qu'est-ce qu'il a dit, les derniers mots qu'il a dit? Ani le dodi ve'alai teshukato. Je suis à ma bien-aimée, je suis à Kadosh Baruch Hu, ve'alai teshukato. Et vers moi sont rivés les yeux d'Akadosh Baruch Hu, vers moi sont le désir d'Hachem, le désir d'Akadosh Baruch Hu, il est vers moi. Rabotaï, comment on peut dire une chose pareille? Quelqu'un il peut avoir la prétention de dire qu'Akadosh Baruch Hu, ses yeux ils sont rivés et le désir d'Akadosh Baruch Hu, il est rivé sur lui. Jusqu'à ce qu'il savait que la neshama de Rabbi Shimon Bar Yochai était convoitée par Akadosh Baruch Hu comme un trésor précieux, qu'il était content Hachem de retrouver cette neshama de Shai Torah. Parce que Moray Ben Aoudai, Rabbi Shimon Bar Yochai, toute sa vie il a fait Messerut Nefesh pour la Torah, il a étudié. Et sa femme aussi, elle avait un grand mérite parce qu'elle a soutenu pour qu'il étudie la Torah. Et ses parents aussi, ils l'ont aidé à l'amener au Beit HaMidrash pour qu'il devienne un gadol Torah. Rabouda est quelqu'un qui étudie la Torah, il est aimé d'Akadash Baruch Hu jusqu'au moment où il peut dire « Ani ledodi valai teshukato ». Je suis à ma bien-aimée, je suis à Akadash Baruch Hu toute ma vie, j'ai consacré ma vie à Hachem. Je donne toute ma vie à Hachem Yitbarach. Et je sais que par le sroud de toute la Torah que j'ai étudiée, de toute la sanctification que la Torah a apportée dans le monde, les yeux d'Akadash Baruch Hu sont rivés vers moi et je sais qu'Akadash Baruch Hu, il est mis de gaga. Il me languit de me retrouver de la même façon à Bodaï. Eliezer Ben Dordaï, elle a fait une tchouva tellement chez les Max, Aneshama, elle s'est languie d'Akadash Baruch Hu, elle est arrivée d'une seconde à l'autre, il est passé du plus grand rachat au plus grand tzadik parce qu'il a vu ce que c'était d'être proche d'Hachem. Rabouda est quelqu'un qui voit la proximité avec Hachem Yitbarach, il ne peut plus jamais fauter dans sa vie. C'est un tzadik. C'est fini pour lui. Toutes les ch'touyotes et les illusions de ce Olamazé, toute cette illusion de cet illusionniste là-bas, de ce grand marboul du etc., qu'on l'appelle le plus grand anesthésiste du monde. Là-bas, j'ai un CD aussi, parce que je voulais vous dire. C'est le CD qui s'appelle Quelques gouttes de lumière pour l'éternité. Il y a 25 cours audio là-bas. On peut faire du frisbee avec s'il y a un voleur qui rentre chez soi. Sinon, vous le mettez là-bas, vous l'écoutez, vous pouvez vous passer des soirées magnifiques et tout ça, entre amis et tout ça, c'est merveilleux. Là-bas, le dernier chiour qui est dans le premier CD, parce qu'il y en a un troisième qui va sortir bientôt, mais dans la troisième, s'appelle Le plus grand anesthésiste du monde. On nous dit que le Yetzirah, toute ta vie, il est en train de te faire des jeux d'illusionnisme pour te faire passer des vessies pour des lanternes. Mais quelqu'un qui a goûté à la vérité, quelqu'un qui a vu Akadosh Baruch Hu, qui a senti Hachem proche de lui une fois dans sa vie, c'est fini pour lui. Tout le Yetzirah, il ne pourra plus le rouler. Parce que le Yetzirah n'est qu'une illusion. Le Yetzirah, il se base sur ton vide, sur le vide intérieur qui est à l'intérieur de toi. Toute ta vie, il essaye de te toucher, de te taquiner parce qu'il te... Ah, mais regarde, si jamais t'as pas ça, tu vas mourir et tout ça. Comment tu vas faire pour faire tchouva? Après, regarde, qu'est-ce qui va t'arriver dans ta vie? Tu vas être un malheureux. Habibi, on est passé par tous les chemins. Moi, je suis là pour témoigner, Rabotaï. J'étais partout. J'ai fait des choses incroyables dans ma vie. Moi, je connais des gars qui étaient à Ibiza et ça, qui est avec le doigt vers le haut et ça. Vous savez pourquoi ils dansent comme ça? Ce qui montre ce qui va leur arriver quand ça arrive dans le ciel. Je sais que ça vous fait pas rire parce qu'on est tous passés par là-bas. Vous savez, j'étais dans tous les endroits à Bouta. J'ai fait du judo, j'ai fait des planchettes japonaises, j'ai fait les championnats de France de judo. Je peux vous faire des petites prises s'il y en a qui font les malins. Qui font les malins. Osokotogari, tu connais toi, Ochigari, Kochigari, Osotogake, toutes sortes de prises et tout ça. J'ai mis des reprises de volets légendaires dans la lucarne du milieu de terrain. J'ai mis un lob une fois. J'ai mis des retournées acrobatiques, des têtes plongeantes. J'étais président européen des associations communautaires. J'étais avec des ambassadeurs, des diplomates, des mzrovim, des maboules, des menteurs, des voleurs, de toutes sortes de gens. J'ai fait ma maîtrise de droit international. J'ai fait plein de choses à Bouta dans ma vie. J'ai des gens qui ont scandé mon nom dans la pelouse là-bas et tout ça. Dans les associations de Genèse, à Bouta, il y a des gens. Alors que j'étais de la poussière et de la cendre, j'étais une chèvre. Mais là-bas, ils croyaient que j'étais quelque chose et que j'étais ouais, le maître chacal et tout ça. Ils m'appelaient maître chacal et tout ça. Les gars, ils devenaient ma boule, à Bouta. J'ai fait des trucs incroyables dans ma vie. Mais je peux vous dire que c'est rien, c'est de la poussière et de la cendre, c'est cloum, c'est du vent, c'est de la vanité, c'est rien du tout comparé à une chose de la Torah, un pshat, un tsirout, une question qu'on pose, une réponse qu'on apporte. Cette jouissance qui te procure l'étude de la Torah, la compréhension d'un rachid, d'un tashpot, d'une ligne de gemara, de n'importe quoi que tu es en train d'étudier un shiur de moussar avec des amis, de voir le visage rayonnant et brillant de ses frères du Ham Israël. Rabotaï, vous imaginez pas combien je vous aime. Moi, normalement, j'aurais dû être en train de manger de la cuisson suivante là-bas dans la salle. Je suis venu là-bas, j'ai fait des allers-retours, le type, il m'a tué. Il m'a tué le taxi, il m'a rendu ma boule, je l'ai attendu, je devenais fou là-bas, j'avais le sang qui remontait dans la tête. Tout ça. Je faisais des tours de terrain, je voulais l'attraper, l'esquinter. J'ai voulu venir à vous parce que je vous aime et que je veux partager cette lumière extraordinaire que j'ai reçue, mais je vous dis une chose, c'est ça que je suis venu vous dire ce soir. Quelqu'un qui a goûté à la lumière d'Hachem Yitbarach, qui a goûté à cette proximité tellement merveilleuse et tellement magnifique. Rabota, il n'a pas envie de faire d'autres choses. Il n'a pas envie d'aller tourner après les vanités de ce monde, après les ch'touyotes, après les bêtises de ce monde. Quelqu'un qui a goûté à ça, comme Eliezer Ben Dordaïa, il dit, sa neshama, il veut s'attacher à Kadosh Baruch Hu, c'est fini pour lui. De la même façon, Yosef Meshita, Rabota. Yosef Meshita, il explique les Mefarshim qu'il est rentré dans le Beit HaMikdash. Vous savez ce que c'est de rentrer dans le Beit HaMikdash, Rabota? Rentrer dans le Beit HaMikdash, c'est de la folie. Quelqu'un qui rentre dans le Beit HaMikdash, il se sent empli et envahi d'une lumière intense, extraordinaire, qui le rend complètement maboule. Il sent un degré de proximité avec Akadosh Baruch Hu, qui peut être atteint par un homme qui a étudié toute sa vie, Messirut Nefesh, jour et nuit, qui a fait des mitzvot, qui a fait du chesed, qui a fait toute la volonté d'Akadosh Baruch Hu de Aleph Atav. comme on raconte sur le Gaon de Vilna, Rabotai. Le Gaon de Vilna, c'était un tzadik et sodolam. Il connaissait toute la Torah dans sa poche, il avait toute la Torah de Aleph à Tav et de Tav à Aleph. Il connaissait tout. C'est lui qui a inventé le verlan, peut-être. Et on dit, je sais pas si vous êtes au courant de ça. C'est quelque chose d'incroyable. Vous savez ce que c'est Aleph à Tav et Tav à Aleph, Rabotai? Dis ce que c'est Ashriya Jve Betecha et Odialilucha, c'est là à l'endroit et à l'envers. Tu le dis tous les jours Ashriya Jve Betecha. Dis-le à l'envers maintenant. Toi, tu sais pas dire cette chose-là. Alors, lui, il connaissait tout Aleph. Atav, tout le Zohar, toute la Gemara, toutes les 2000 pages, les 3000 pages, les 10000 pages, tous les Mefarshim, toutes les choses, il les connaissait dans sa main. Qu'est-ce qu'il a dit, le Gaon de Vilna, Rabotai? Il a dit, je suis prêt à donner toute ma Torah pour rentrer une seconde dans le Beth Amigdash. Comment c'est possible? Comment tu es en train de faire une chose pareille? De la même façon, Moshe Rabbeinu. Combien il a supplié, à Kadosh Baruch Hu de rentrer en Eretz Israël pour aller sur le lieu du Beth Amigdash, pour aller se recueillir là-bas? A posteriori, en plus, ça veut dire. Ouais, c'est ça, exactement. A posteriori, ça veut dire que ça n'existait pas encore. C'était quelque chose qui était. A priori. C'était quelque chose qui n'y avait pas encore la Kedusha du Beth Amigdash. Mais il s'est dit, je voulais rentrer en Eretz Israël juste pour voir l'endroit qui va accueillir la Shekhina, qui va être le réceptacle de la présence divine. C'était quelque chose d'incroyable. Pourquoi? Il dit, parce que toute la Torah, Kedusha, qu'est-ce qu'elle mène? C'est quoi la finalité de la Torah? La finalité de la Torah, c'est la proximité avec Hachem. La proximité qu'on pouvait ressentir en rentrant une seconde dans le Beth Amikdash, quelqu'un qui rentrait avec des doutes, il n'avait plus de doutes. Quelqu'un qui avait un problème de n'importe quoi, il n'avait plus de problème. Il sentait une tellement grande proximité avec un cadavre où tout était de sa loupe, tout était de barreau devant lui, tout était clair devant ses yeux. Il n'avait plus aucun problème, le gars, il était refait. C'était fini pour lui. Le Gaon de Vilna qui a étudié toute sa Torah, il s'est dit, moi, toute ma Torah, elle m'a aidé à quoi? À m'approcher d'un cadavre. Je sais que la douche de lumière vivifiante que j'aurais pris en rentrant dans le Beth Amikdash, elle aurait été aussi grande que cette divrei Torah que j'ai étudiée toute ma vie. J'aurais été prêt à ça pour dire combien c'était puissant et combien c'était grand. Yosef Meshita, le collaborateur à Botaï, qui était prêt à aller vendre ses frères et aller les dénoncer, aller faire des bêtises, et tout ça, qui était Khayav Mita, d'après le dit, normalement, peut-être qu'il était Khayav Mita, il était passible de la peine de mort. Il a sorti la menorah du Beth Amikdash. Une fois qu'il est rentré là-bas dans le Beth Amikdash, je ne pourrais plus jamais rentrer là-bas. Parce que quand j'ai senti la proximité avec mon Créateur, est-ce que j'ai encore le goût de fauter? Est-ce que j'ai encore le goût d'aller à contre-courant de celui qui m'a donné la vie? De celui qui m'a donné ce sentiment de plénitude et de proximité tellement puissant et tellement beau? Ramosa, il est rentré, il a chassé toute l'illusion de sa vie. C'était fini, toute cette illusion et toutes ces ch'touliotes et tous ces mensonges, etc., ils sont partis. Ils se sont évanouis en même temps qu'il est rentré et qu'il a senti cette proximité avec son Créateur. Jusqu'au moment où il était prêt, à ce moment-là... Toutes les vanités du monde qui lui ont proposé, tout l'argent, tous les honneurs, ça ne valait pas. C'était rien du tout. C'est lui le témoin, Rabotai, il est là pour témoigner. La façon que nous, on est passé par tous les chemins, on est là pour témoigner. La façon Yosef Meshita, il est là pour témoigner. Donnez-moi tous les milliards du monde, tous les honneurs du monde, ça ne vaut pas la proximité. Est-ce que tu crois que je vais perdre cette proximité avec Hachem pour quelques dollars, Habibi, qu'on va m'enterrer là-bas et que je vais rester sans mes dollars là-bas? T'arrives dans le ciel, c'est pas ouvert la chambre là-bas. Avec les dollars, tu peux rien payer. C'est comme si t'arrives avec la monnaie du Liechtenstein ici, là-bas, en Israël. Le gars, il dit, Habibi, t'es gentil avec ta monnaie, mais rentre chez toi. Ici, tu peux acheter des poils de chèvre pour te faire une moustache, peut-être, avec nous. Tu peux t'acheter un petit duvet pour dormir les soirs où il fait 70 degrés à Eilat, tu vois. Qu'est-ce que tu vas faire avec ça? Tu peux rien faire. Il dit, est-ce que moi, je vais troquer cette proximité avec Akadosh Baruch Hu contre ça? Il était prêt à renoncer à tous les plaisirs du monde. Et il était prêt à prendre toutes les épreuves et toutes les souffrances du monde pour ne pas perdre cette proximité avec Hachem. Rabotai, la proximité avec Akadosh Baruch Hu, ça permet de traverser toutes les épreuves du monde, toutes les épreuves de la vie. Quelqu'un qui sent qu'il est proche de son Créateur, il a beau avoir toutes les choses qui lui tombent dessus, puisqu'il sait que tout ce qu'Akadosh Baruch Hu, c'est lui qui décide tout. Est-ce que quelque chose pourrait m'arriver? Est-ce qu'on peut venir me contrer? On peut venir me faire quelque chose de mal? Mais je suis avec Hachem, Hachem ni velo ira ma esili adam. Je suis avec Hachem, j'ai pas peur, qu'est-ce qui me ferait l'homme? Personne ne peut me toucher dans ce monde. Je suis le maître, je suis le fils du roi de l'univers. Qu'est-ce qu'il y a quelqu'un de plus heureux que moi? Proche, ça veut dire faire toute la volonté d'Akadosh Baruch Hu. On va en parler dans une seconde.
Sentir,
moi je te raconterai une fois en privé ce qui m'est arrivé une fois. Si tu l'entendras peut-être sur un chiour et de ça, je l'ai dit sur un chiour, je t'enverrai Bedrat Hashem, vous me laisserez vos mails parce que chaque jour j'écris une goutte de lumière pour vous éclairer un peu le quotidien et de ça, celui qui est à Wall Street et tout ça avec les ordinateurs, 12 000 ordinateurs, il reçoit la goutte de lumière, il se met quelques secondes dans sa journée, il se rapproche d'Akadosh Baruch Hu, c'est quelque chose d'assez unique, vous le ferez, vous me laisserez tous vos mails Bedrat Hashem à la fin. Je t'enverrai le chiour là-bas, je raconte une petite histoire qui m'est arrivée quelque chose pour qu'on voit ce que c'est de sentir la proximité avec Hachem. Mais en tout cas, celui qui sent le souffle d'Hachem sur son visage une fois dans sa vie, Rabbeinu Yonah nous dit qu'il doit le conserver, le garder et qu'avec ce souvenir-là, il pourra passer toutes les épreuves qu'il a eues dans sa vie, il pourra les passer. C'est quelque chose d'assez incroyable. En tout cas, avec cette réponse qu'on a répondu à ces deux choses-là, on va répondre aux premières questions qu'on a posées. On a demandé comment ça se fait qu'on doit faire d'abord Kippour, d'abord Rosh Hashanah et après Kippour. On aurait dû faire normalement l'inverse. Rabotai, la fête de Rosh Hashanah, c'est la fête du trône d'Hachem. Cette fête-là, elle est merveilleuse. Pourquoi ? Parce que c'est une fête où tu peux atteindre une proximité avec le Créateur que tu ne peux pas atteindre pendant tous les jours de l'année, qui sont les autres jours de l'année. Pourquoi ? C'est marqué dans le verset « Dirchou Hashem veimatsu kerou beotokarov ». Recherchez Akadosh Baruch Hu quand il est proche, appelez-le quand il est à côté de vous. C'est quoi cette période-là ? C'est les Aseret Yemei Teshuvah, pendant les 10 jours de Teshuvah. Akadosh Baruch Hu Rabotai, il descend du Kissé Akavod, il est avec nous, il est présent avec nous pendant les 10 jours de Teshuvah, Hashem il est avec nous. Cette proximité qui est tellement extraordinaire, tu te rends compte que tu es en train de faire le trône d'Hashem. Zochlenu lechai, melech hafez bachaim, tu es en train de dire à Akadosh Baruch Hu, à melech hakavod, à melech hamishpat, tu es en train de dire à Akadosh Baruch Hu, galek vod malchutra bechol haolam, dévoile la splendeur de ta majesté, Akadosh Baruch Hu, tu es en train de lui dire toutes sortes de louanges et toutes sortes de choses. Rabotai, le jour de Rosh Hashanah, tu atteins une dvekout et une proximité avec le Créateur qui est tellement extraordinaire qu'elle ne peut pas être égalée pendant tous les autres jours de la vie. Une fois que tu vois, Habibi, combien c'est merveilleux et magnifique d'avoir atteint ce degré de proximité avec le Créateur, alors là, tu peux te présenter à Kippour et demander pardon à Kadosh Baruch Hu. Et pourquoi tu vas demander pardon à Kadosh Baruch Hu ? Parce que tu sais que la faute, c'est ça t'éloigne de ton Créateur. Tu m'as demandé c'est quoi être proche d'Hachem ? Proche d'Hachem, ça veut dire faire la Torah et les mitzvot, parce que plus on fait des mitzvot et plus on se rapproche de lui. Plus on fait des averot et plus on s'éloigne de lui. C'est ça là, le salaire et la punition d'une mitzvah et d'une avera, ils disent certains mefarshim. La mitzvah, elle te rapproche d'Akadosh Baruch Hu, elle te rapproche de la source de lumière, de plénitude et de sérénité du monde, qui est Hachem, et de toutes les bénédictions. Et la vera, elle t'éloigne de cette source de lumière extraordinaire. Et donc quelqu'un, il sait que, maintenant il a compris, il est allé à un shiur de Torah, il sait que les averot, ça l'éloigne d'Hachem. Une fois qu'il a vécu cette proximité avec Hachem tellement merveilleuse et tellement magnifique, il peut arriver à Kippour et il peut demander pardon. Pourquoi ? Parce qu'il voit qu'est-ce qu'il a perdu. Il voit qu'est-ce qu'il faut qu'il soit mevatel, qu'il annule, pour ne pas perdre cette proximité magnifique qu'il a atteint le jour de Rosh Hashanah avec Hashem Yitbarach. Si jamais il a senti ça, il a vu combien c'était merveilleux d'être avec Akadosh Baruch Hu, alors là il peut demander pardon sur ses fautes. Mais quelqu'un qui ne sait pas ce que c'est d'être avec Hashem, sur quoi il va demander pardon ? Mais qu'est-ce que j'en ai à faire d'avoir fait ces fautes-là ? Qu'est-ce que ça me fait d'avoir fauté ? J'ai rien fait, j'ai rien perdu. Mais quand tu sens combien c'est merveilleux d'être avec Hashem, et que tu sais que toutes les avérotes que tu as fait, c'est ça qui te tient à distance de ton Créateur, quand tu arrives à Kippour, alors là tu peux véritablement demander pardon parce que tu vois ce que tu as perdu. Vous comprenez pourquoi maintenant il y a d'abord Rosh Hashanah, ce moment de proximité comme ces grandes tzadikim là. Quand ils ont vu la proximité avec Akadosh Baruch Hu, alors là ils ont pu faire tchouva shelema, ils ont vu qu'est-ce qu'ils avaient perdu, et ils ont voulu rattraper le temps perdu, et ils ont pu vraiment faire un Kippour où ils allaient se transformer et se revivifier. Et pour revenir à la deuxième question qu'on a posée, comment ça se fait que toi, pendant ces jours-là, on est en train de te demander dans les jours de Tchouba de faire des mesures de piété ? Tu vas boire que du lait qui est surveillé. Tu vas manger que du pain qui a été cuit par que des bnei Israël. Mais Khabibi, il y a tellement d'autres choses à faire. Ça, c'est pour les grands tzadikim. De qui tu te moques ici ? Tu sais très bien qu'après ces 10 jours-là, tu vas abandonner ça. Tu vas retourner à tes affaires, tu vas continuer à faire tes ch'touyotes et tes choses et tout ça. Donc qu'est-ce que tu es en train de faire ? Tu joues un rôle. À Kadosh Baruch Hu, tu fais du cinéma et de la comédie devant Hachem. Hachem, il veut les gens qui ont un cœur pur, il veut des gens qui sont sincères. Hachem, il veut pas que tu joues un rôle avec toi. Rabotai, écoutez bien ça. Quelqu'un qui se déguise en tzaddik, qui voit combien c'est merveilleux d'être un tzaddik, il se rend compte qu'en fait, il s'est fait rouler par le Yetzera qui disait, mais toi, c'est pas pour toi d'être un tzaddik, c'est trop difficile pour toi. Mais moi, j'étais un tzaddik pendant 10 jours. J'ai vu combien c'est magnifique d'avoir le souffle d'Hachem sur mon visage. J'ai vu combien c'est magnifique de se lever au slichot et de prier et de faire Messirut Nefesh pour ne pas regarder les filles dans la rue et de faire Messirut Nefesh pour m'habiller de sanoua, pour ne pas que les hommes y tribuchent sur moi en me voyant, pour ne pas que j'ai des enfants qui soient tzadikim par le sroud de la tzniout que j'aurai des enfants de tzadikim. J'ai vu combien c'est finalement ça m'a porté. C'est magnifique d'être un tzadik. C'est merveilleux d'être comme ça. Alors la personne, puisqu'elle s'est déguisée, ce déguisement, elle va vouloir le porter pendant toute l'année. Et elle veut passer du potentiel au réel. Et c'est ça que les Chachamim nous ont dit. Déguisez-vous pendant 10 jours. Voyez combien c'est magnifique, combien c'est pas si tellement difficile que ça d'être un sadique finalement. À partir du moment où toi tu vois que tu es capable pendant 10 jours de faire Messirut Nefesh, et tu vois que ce que ça t'apporte dans ta vie d'être proche d'Hachem, alors là à ce moment-là tu as les forces pendant toute l'année de continuer parce que tu ne veux pas perdre ce degré de proximité avec le Créateur. Ça c'était la fête de Rosh Hashanah et de Kippour. Juste après il y a la fête de Sukkot. La fête de Sukkot, c'est quelque chose d'assez insolite qu'elle se positionne à ce moment-là de l'année. Normalement, la fête de Sukkot, puisqu'on sait que la Sukkot, c'est la représentation des cabanes, des nuées d'un année à Kavod, des nuées de gloire, des colonnes de nuées de gloire qui ont accompagné les Bnei Israël dans leur sortie et dans les pégrinations dans le désert dans les 40 années. On sait que les Bnei Israël se sont fait accompagner par ces colonnes de nuées. Ces colonnes de nuées, c'était quelque chose d'incroyable. c'était quelque chose qui les protégeait, qui les préservait du chaud le jour, du froid la nuit, parce qu'on sait que le climat polaire dans le désert, et ça, c'est, il fait 40 degrés le jour et moins 40 la nuit, et ça parfois. Et ça. Donc il y avait c'était la climatisation des tendances, hein, le mazgan, et ça. D'ailleurs, je vois qu'ils ont coupé le mazgan, parce qu'ils veulent nous rendre méritants, parce que chaque goutte de transpiration qu'on fait pour la Torah, c'est un grand mérite. Alors je vois qu'ici, ils ont voulu nous faire la mitzvah beidour, comme le etrog et tout ça, qu'il faut pas qu'il y ait de tâches, de la façon, ils ont voulu nous rendre méritants. C'est pas grave. Hein, c'est pas grave. Moi, je suis en train de me chauffer comme un lion parce que je parle, mais vous écoutez, donc ça va. Si jamais ça vous réchauffe le cœur, ça me suffit. Alors, vous entendez, Rabotaï, quelqu'un, il arrive, il est dans les Ananakavod, c'est Ananakavod, elle le protégeait du chaud, elle le protégeait du froid. C'était un champ électromagnétique qui le protégeait de tous les animaux. Tous les animaux, les animaux malfaisants, les scorpions, les reptiles, les serpents, les vipères, et ça qui voulaient rentrer la nuit et ça pour agresser les Bnei Israël, ils étaient repoussés par ce champ électromagnétique qui étaient les nuées, les colonnes de gloire qui sont l'incarnation de la soukha. C'était quelque chose d'incroyable, la soukha c'était quelque chose de merveilleux. Mais ces soukhotes-là, on les a eues quand? Quand on est sorti à Pessah. Donc normalement la soukha, la fête de soukhot aurait dû arriver après Pessah, pas après Rosh Hashanah et Kippour. Comment ça se fait? La raison qui est apportée par les Mefarshim, la raison simple, c'est qu'on a voulu rendre méritant les Bnei Israël de leur faire faire la soukha dans les moments où il y a de la pluie. Généralement en Europe et dans d'autres endroits, c'est le moment où on va passer à l'automne, il va y avoir des pluies qui vont venir et aussi un climat qui va être diluvial. Ça, Baruch HaShem, ici en Israël, on a eu le mérite d'accomplir Bem Messirut Nefesh, la mitzvah, parce qu'il faisait encore plus chaud que si jamais ça avait été appelé ça cette année. Mais en tout cas, l'explication qui est amenée par les commentateurs, il nous dit, si jamais vous avez eu la soukha juste quand vous êtes sorti d'Égypte, à Pessah, alors à Pessah, c'est un moment où il ne fait pas chaud, il ne fait pas froid, c'est un moment qui est naïm et ça, c'est agréable d'être dans les soukhotes. Donc vous n'aurez pas fait ça pour faire la mitzvah de soukha, vous aurez fait ça pour votre ana personnel, pour votre profit. Le gars, il se met là-bas sous la soukha, il se repose, il fait le Marlon Brando avec sa coupe carrée, tout ça, il se met là-bas, il y a le vent qui vient le caresser la nuque et la peau et tout ça, il est tranquille et ça, il est heureux de vivre, quoi, le gars. C'est magnifique, c'est le moment de profiter, on s'est mis dans le jardin, quoi, tranquille. Et si jamais toi tu viens et tu fais la mitzvah de soukha quand le vent il commence à souffler, tu montres à Kadosh Baruch Hu, regarde combien je t'aime. Malgré tout ce vent, malgré toutes ces difficultés, je suis avec toi, j'ai pas de problème. Ça c'est l'explication qui est ramenée classiquement. Moi je voudrais vous ramener une explication que j'ai eu le sroud de redécouvrir Bessiat Adishmaya. Je sais qu'Akadosh Baruch Hu il m'a éclairé les yeux une fois pour découvrir cette chose magnifique. J'avais entendu mon maître Rav Yosef Bentata, un grand sabbat de Yerushalayim que je vous ai déjà cité tout à l'heure. Et il m'avait dit quelque chose et j'avais fait la connexion avec ce que j'ai étudié de mon maître Moshe Kaplan c'est lui qui m'a inspiré pour la majeure partie des quelques bouts de lumière pour l'éternité, que c'est sur la paracha et sur les fêtes. Là-bas, beaucoup de sirot, des commentaires sur la paracha Tachavua. C'est des leçons, c'est en fait des cours d'éthique et de morale qui nous aident à travailler sur nos qualités de cœur. Ben, c'est beaucoup de Rav Moshe Kaplan et ce chidouche que je vais vous dire, c'est lui qui m'a un petit peu inspiré. On sait que il y a deux éléments qui sont fondamentaux dans les constituants, des choses qui nous aideront à tenir à la fin des temps. Habakouk nous dit dans la Gemara, dans Masechet Makot, à la page 23, c'est marqué là-bas dans la Gemara, dans Makot, Kaf Gimel Amud Alef, je crois que c'est au folio A, Vetzadik Vemunarto Yechie. Un jour on est venu, il y avait 613 mitzvot, et on a fait en sorte de réduire les mitzvot au maximum pour savoir quelle est la mitzvah qu'on doit prendre sur nous, de nous renforcer, qui nous permettra de pouvoir faire toutes les autres mitzvot. Le tzaddik, par sa foi, il vivra. Donc à la fin des temps, si quelqu'un il doit savoir sur quoi il doit se renforcer, c'est sur sa foi. Parce que si jamais il a la foi, alors il accomplira toutes les mitzvot de la Torah. Comme mitzvotecha imuna. Un télim de David nous dit, toutes les mitzvot ne sont qu'imuna. Et il y a une différence maintenant entre la foi et la confiance. La imuna et le bitachon. Nous dit le chazonish dans imuna ou bitachon. La foi, qu'est-ce que c'est? C'est la imuna, c'est la foi. La foi, c'est quoi? C'est la théorie. La théorie, c'est ce qu'on est en train de proclamer tous les jours. Hachem Eler, Hachem Mimlor, Hachem Amalach, Hachem Mimlor, Lamvay. Akadosh Baruch Hu, c'est toi le roi, c'était toi le roi, c'est toi qui seras le roi aussi de demain. Shakol Niyavid Baro, tout a été créé par ta parole. Akadosh Baruch Hu, c'est toi qui fais tout dans la vie, c'est toi qui fais tout, c'est toi le maître de l'univers et tout ça. Ça, c'est des choses qu'on proclame avec notre bouche, c'est une théorie. Parce que c'est le bitachon. Le bitachon, c'est la pratique. Quand toi, tu vas arriver dans une difficulté de ta vie, que tu vas être confronté à un problème, est-ce que tu vas continuer à scander l'unicité d'Akadosh Baruch Hu? Ou est-ce que tu vas te sauver, tu vas te réfugier chez ton conseiller juridique, ou chez ton avocat, ou chez ton médecin? Est-ce que tu vas continuer à croire à Kadosh Baruch Hu, mais Pémalé, tu vas l'implorer et l'invoquer pour qu'il te sorte, Minamakim, Tekeratira, Hachem, des profondeurs, j'ai imploré à Kadosh Baruch Hu, ou est-ce que tu vas vite t'échapper et tu vas pas être au Maître Ben Isayan? C'est la différence qu'il existe entre la Emouna et le Bitachon. c'est le passage qu'il y a, et quand est-ce qu'on le voit, c'est dans les moments d'épreuve, comment quelqu'un il va continuer à se comporter, comment il va se conduire. Moraï Berabotai, les fêtes de Rosh Hashanah et de Kippour, c'est des engagements avec la bouche qu'on a pris. C'est marqué sur la tchouva qui karov lecha davar meod, lo ba shamaim hi velo me'ever layam, beficha ou bilvavecha la asotam. Cette mitzvah de Teshuvah, nous dit le Ramban, il y a une marloquette entre le Ramban et Rashi. Rashi nous dit que c'est la Torah. On voit qu'aujourd'hui la Torah est proche de nous. Sur internet, il y a des gars qui sont là-bas en Afghanistan, qui nous regardent, le commandant Massoud, on le salue. Il est dans la tombe là-bas, il se roule. Il nous voit en 3D là-bas. Donc vous voyez les gars, la Torah elle est proche aujourd'hui de nous. Quelqu'un il est chez lui tranquillement en train de manger des pop-corn, en train de se boire des girafes de bière. Il est en train de voir un shiur de Torah là-bas, et un rabbin beau gosse qui lui fait un petit shiur là-bas, il est tranquille et tout ça, il mange des pop-corn en même temps. Et il est en train de voir un rabbin qui est en train de faire un shiur. La Torah est toute proche de toi. Elle n'est pas dans le ciel, elle n'est pas dans la terre, elle n'est pas dans les mers. Elle est à côté de toi, dans ta bouche et dans ton cœur. T'as envie ? Alors la Torah elle est dans ta bouche. Mais Ramban nous dit que c'est la tchouva. La tchouva elle est facile. Beficha ou bivavecha la sotam. Il suffit de prendre la décision et de s'ancrer dans le cœur, dans s'enraciner dans le cœur, de vouloir faire la chose. Mais encore, ça ne suffit pas. Ça, c'est juste la décision, mais maintenant, il faut passer à l'action. Rabotai, pendant ces 10 jours de tchouva, on a parlé avec Hachem. On s'est engagé avec lui, on lui a dit qu'on allait devenir meilleur parce qu'on a eu raf. On a eu peur parce qu'on savait qu'on allait peut-être ne pas être dans le lit de la vie. On voit combien de frères nous ont quittés, Rabotai, cette année. Combien on a de peine et de tsar pour eux. Je dédie Gam ce shiur, Leilu Nishmat, Avraham, Ben Gorgia, Bezrat Hashem. C'était un grand sadique qui m'a aidé beaucoup pour ce livre. Il a fait beaucoup de corrections avec moi dans ce livre. Il est parti très vite alors qu'on ne s'attendait pas. Quelques jours plus tôt, je lui ai parlé au téléphone. Tu te diras bien, Abraham, comment ça va et tout ça, tout va bien. Comment tu sens ce Kippour qui arrive? Il m'a dit, je te fais une confidence, j'ai un peu peur cette année. Rabotai, c'était un sadique le gars. Il faisait mes sirout nefesh. Il m'a aidé toutes les nuits. De la même façon que moi, je travaille la nuit aussi. Alors que lui, c'est pas la même chose. Moi, c'est moi, j'ai mis mes tripes dans ce sefer. J'ai mis toute ma vie pour ça. Je me suis donné et engagé pendant des années de ma vie. Pendant ces deux années où de ma vie, j'ai donné toutes mes forces pour le livre. Mais lui, il n'a rien à voir avec ça. Il faisait ça à l'Hachem Shamaïm, Rabotai, pour Hachem, pour la gloire d'Hachem, pour qu'il y ait des gens qui puissent se réjouir de la Torah, qui puissent se renforcer avec des livrets Torah. Je l'appelais. Parfois, je voyais, il m'envoyait des messages à 4h du matin, parfois à 6h du matin. Je me disais, mais quand est-ce qu'il dort celui-là? Il va à la tuila à 5h du matin. Parfois, il m'envoie à 4h du matin et parfois à 6h. Alors, j'ai pas compris comment il est en train de faire. Il faisait mes sirout nefesh, il a quitté le monde. Rabotai, des gens plus de sadikim que nous. Alors nous, on a eu peur pendant 7 jours de tchouva. On a dit Hachem, Ribono Shalolam, je sais que j'ai fauté, j'ai fait des choses très graves. Je t'assure, je vais être un sadik, je vais faire des choses mieux. Je m'engage, avec mon cœur et avec ma bouche. Rabotai, ça s'appelle Aemuna. Pendant les 10 jours, tu es en train de faire preuve d'Aemuna. Je sais qu'Akadosh Baruch Hu, tu es le Melech HaMishpat. C'est toi le maître de l'univers, c'est toi le roi, c'est toi le juge. C'est toi le maître de l'univers, on a peur de toi. On sait que c'est toi et on proclame ta royauté et ton unicité, c'est le jour de Rosh Hashanah. Et on sent combien on est proche de toi, on sent combien c'est magnifique d'être avec toi. Rabotai, ça s'appelle la Emouna. On a compris qu'il y a un dirigeant, on a compris qu'il y a un directeur dans ce monde. On arrête de vivre Befkerout, dans l'abondance des mœurs, dans l'abondance des choses, et qu'on vit comme on a envie, qu'on a envie de faire ce qu'on veut. On fait, oh, Akadosh Baruch Hu, il t'a donné des cadeaux précieux, Habibi. Il t'a donné des yeux. Avec ces yeux, qu'est-ce que tu fais? Tu vas voir des choses qui sont interdites. Il t'a donné une bouche, Habibi. C'est ce que c'est de parler. Il y a des gens qui n'ont jamais pu parler de leur vie. Et nous, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Je vous dis, quand je viens de faire du moussard, ici, c'est à moi que je me donne du moussard. C'est pas à vous que je suis venu parler. C'est moi. Je me parle à moi. Je fais tchouva et Bezrat Hashem. Celui qui veut faire tchouva avec moi, je l'invite et tout ça. C'est pour ça que je suis venu avec vous et tout ça. Sinon, j'aurais fait chez moi. J'aurais resté là-bas. Mais comme ça, chacun, il peut profiter. Mais moi, je me parle à moi. T'as donné une bouche. Qu'est-ce que tu fais avec cette bouche? Tu vas dire du mal de ton frère d'Israël. Tu vas lui salir sa réputation. Tu vas lui casser son image que toute sa vie, il a fait. En sorte de faire messieurs de Nefesh, de se sacrifier pour avoir une belle image. Toi, en une seconde, tu vas le déraciner avec ta bouche. Mais tu voles, tu détournes des fonds. Akadosh Baruch Hu, il t'a donné une bouche. Utilise-la pour faire sa louange, pour dire des bonnes choses. Il t'a donné des oreilles. Il t'a donné des doigts pointus pour que tu te bouches les oreilles si t'as entendu la chanara. C'est pour ça que t'as les doigts pointus. Tu t'es jamais demandé cette question. Je savais que ça allait t'interpeller. Pourquoi tes doigts ils sont pas carrés? Pour qu'ils soient, ils sont pointus comme ça, tu peux faire comme tout. Tu connais ça? Ça fait plaisir. Je sais que je vous ai dit des choses qui vous ont bien révolutionné ce soir, ça vous fait plaisir. Je sais que c'est des choses. Moi aussi, quand je les ai entendues, ça m'a fait du bien et tout ça. J'ai dit c'est magnifique et tout ça, la Torah, ça nous apprend des choses élémentaires, quoi, qu'on ne s'est jamais demandé. En tout cas, tu vois que Akadosh Baruch Hu, il donne tellement de choses et toi, tu les as pas rentabilisées. Quelqu'un, il va faire tchouva, il va dire Ribono Shel Olam, maintenant je m'engage à utiliser tout le potentiel que tu m'as donné pour faire ta louange. Kol Haneshama Talelia Alléluia, Kol Haneshima Talelia Alléluia. Toutes mes respirations, elles sont pour toi, Hashem Yitbarach. J'arrête de vivre dans l'abandon des mœurs et de faire ce que j'ai envie de faire avec qui j'ai envie au moment où j'ai envie. Maintenant, je vis comme toi tu veux parce que j'ai compris que c'était toi le maître de l'univers. Rabotai, ça s'appelle la Emouna. Cette Emouna, elle ne suffit pas. Akadosh Baruch Hu, il va nous donner la possibilité de vérifier le passage de la théorie à la pratique. Comment il fait? Il te met dans la soukha. La soukha, tu te départis de toute la matérialité de ta vie. Tu sors d'une maison qui est le symbole de l'écran plasma, écran placenta, comme on l'appelle dans le milieu, le waterbed, le pacha de l'hôtel David Intercontinental de Tel Aviv, comme un parrain de la mafia, Tony Montana et les siens. Petite dédicace pour ceux qui sont au Gainam. Et donc, c'est la première fois que je fais cette blague, elle est très sympa. Moi, si elle m'a plu, je la ressentirai, ça fait plaisir. Vous comprenez ou pas? Le type, il est là-bas dans sa maison, on lui dit, Habibi, tu vas sortir de ta maison, tu vas aller là-bas dans cette cabane, là-bas dans cet abri. Toute la vie, tu es en train de dire, oui, Akadosh Baruch Hu, je veux vivre avec toi, et dévoile le kavod de ta malchut, de ta majesté, j'en ai marre de vivre dans la matérialité, je veux vivre dans la spiritualité, tout ça. Ah bon? On va voir comment tu vas faire quand tu vas rentrer dans la soukha, Habibi. Est-ce que tu vas avoir la mine de Tchadeb? Oh là là, il fait chaud, il fait froid, c'est difficile ici, on n'a pas de quoi s'asseoir, c'est dur, pourquoi on se casse le dos ici et tout ça? Ou est-ce que tu vas être le plus heureux du monde, Habibi, d'être sous l'ombre d'Hachem Itbarar? Cette soukha, c'est l'ombre d'Hachem, Rabotai. C'est le souffle d'Akadosh Bokhu sur ton visage, la proximité avec lui, Akadosh Bokhu, il te prend dans sa main. La soukha, elle est constituée, dit le Harizal. C'est un ami, Michael Khatab, il m'a dit hier, il m'a dit, il était chez moi, Shabbat. La soukha, il faut qu'elle ait trois tfanot. C'est quoi trois tfanot? Il faut qu'il y ait une ama ici, une ama ici. Il y a au minimum trois paroles, Khazak. Merci beaucoup. Parfois, j'en perds mon latin. Ça fait longtemps que j'ai pas fait de latin, en fait. Donc, il y a une paroi ici, une paroi là, et une toute petite paroi là. Ça suffit. Une paroi ici d'inama, ça veut dire de minimum 50 cm. Une de 50 cm au minimum ici. Et ici, kamotcheu. C'est quoi, en fait? Ici, ça, c'est comme Akadosh Baruch Hu. Il met son bras ici et là. Il nous enlace, Rabotai. C'est le symbole. Hein? Comme ça, il dit. Khazak, c'est marqué dans le... T'es un patron, toi, ça fait deux fois que tu me fais une femme. Tu me rappelles la première fois que tu as fait? Là, tu m'as refait cette là. Encore une fois, t'es mino? Vemino, t'es parfait. Tachat le roshi, vemino, t'es chabekeni. C'est très romantique, c'est à Kadosh Baruch Hu et Knesset Israël, Rabotai, on rentre sous l'aile protectrice d'Hachem. Au moment où toi, t'es sous cette aile protectrice, est-ce qu'on va te voir maintenant? Tout ce que t'étais en train de dire, à Kadosh Baruch Hu, je veux vivre avec toi, ça y est, j'en ai marre d'être dans les ch'touyot, dans le holamazé, ça. Ah bon, t'en as marre d'être dans le holamazé? Allez, viens. Tu sors de Kippour, on va t'amener dans la soukha. Voilà, t'es dans le holamaba maintenant. La soukha, c'est domé le holamaba, Rabotai. Pourquoi? Parce que c'est quelque chose qui est départi de toute matérialité. Et le holamaba, c'est quelque chose qui est départi de toute matérialité. Tu veux voir, maintenant, on va vérifier quand tu vas être dans l'épreuve, est-ce que tu vas être sa meilleure, Betor El Kecha? Tu vas te réjouir de ça? Ou est-ce que tu vas te dire, ah purée, je vais faire des tfilotes pour que Hachem il envoie des tsunamis et des trucs terribles et tout ça, comme ça je vais être mitzvah patourba soukha. Parce que quand il y a de la pluie et tout ça, on n'a pas l'obligation d'être dans la soukha. Est-ce que tu vas passer de la théorie à la pratique de la emuna ou bitachon? Ou est-ce que toi tu étais magnifique? Ouais, c'était magnifique quand j'étais à Kippour et ça, j'étais chez moi et je disais à Kadosh Baruch Hu, Melech HaMishpat, Melech HaKavod, c'est magnifique, Hachem dévoile-toi et ça. Donc j'arrive dans la soukha et que je me retrouve là vraiment dans la situation que j'ai demandé à Kadosh Baruch Hu. Hachem, je t'en prie et ça, envoie-moi la pluie comme ça je rentre là-bas comme un pacha, là-bas comme un parrain de la mafia. En vrai, c'est pour ça que cette fête de soukha, elle vient directement après parce que c'est le passage de la emuna ou bitachon. Je vous dis, quand je dis ce chidouche, ça vaut des milliards. J'ai envie de vous embrasser parce que vous êtes magnifique. Mais je vous dis, je deviens fou de la Torah. C'est pas de ma faute, je deviens un fou. C'est merveilleux, Rabotai. Purée, moi, je vous assure, je deviens ma boule. Je deviens ma boule, c'est trop. C'est trop magnifique. Rabotai, ils m'attendent là-bas. Alors, je vais vous dire encore quelques dernières notions et je vais m'enfuir et tout ça. Après, je suis sûr que la prochaine fois, je vais venir et tout ça. Et je sais pas comment ils vont faire là-bas. On va s'asseoir tous. On va louer le Stade de France là-bas. On va voyager ou là-bas. Le New Camp, même. C'est le grand New Camp de Barcelone. Vous le connaissez? C'est quelque chose d'incroyable. Ouais, tu es plus branché quoi? Tu me dis la première fois, tu me dis les références que je dois ramener, tout ça. Si jamais tu veux, je te ramènerai le volleyball, comme Jeanne et Serge, tout ça. Mais tu regardais quand tu l'as fait. Ouais, j'ai fait une fête. Alors, à Rabotai, vous entendez? Cette fête de Sukkot, c'est une fête où on peut atteindre la proximité avec Akadosh Baruch Hu encore d'une façon encore plus grande et de vivre une proximité authentique, qui n'est pas une proximité que dans les mots, mais qu'une proximité dans les actes. Tu vis avec Akadosh Baruch Hu. Rabotai, c'est le moment ou jamais pour toi de venir et de te mettre dans cette soukha et de te dire j'ai pas besoin des miklats, j'ai pas besoin de l'armée, j'ai pas besoin des bombardements, j'ai pas besoin j'en ai rien à faire des armes nucléaires et des attaques et d'Ahmadinejad, le nain de jardin, de toutes ces marboules et de tous ces chèvres. Je viens dans la soukha là-bas, dans ce scar là-bas, cette soukha elle est comme, et je suis sous les ailes protectrices d'Akadosh Baruch Hu, il peut rien m'arriver. Vous pouvez m'envoyer des bombes, vous pouvez m'envoyer n'importe quoi, mais je suis avec Akadosh Baruch Hu, est-ce qu'il peut m'arriver quelque chose ici? Il ne pourra jamais rien m'arriver dans ma vie. Je suis avec Hachem. Rabotaï, c'est Mechazek, Meod, pour la fin des temps, pour les guerres de Gog et Magog. Tu dois te préparer. C'est pour ça que peut-être on lit l'Aftara de Gog et Magog pendant ces fêtes-là, de la guerre de la fin des temps. Voilà, j'ai pas besoin de miklat, j'ai pas besoin d'abri, j'ai pas besoin de bunker, j'ai pas besoin de refuge. Mon refuge, c'est Akadosh Baruch Hu. Hachem li velo ira mayasi li adam, quand je suis avec Akadosh Baruch Hu, ce qui peut m'arriver quelque chose. C'est lui mon bouclier, c'est lui ma vie. Qui aime chayenu veorech yamenu, la Torah, elle te protège. Et Torah ve mitzvah de magenu, Allah, la Torah et les mitzvahs, c'est un bouclier contre le gainam, contre toutes les explosions, contre toutes les maladies, contre tous les problèmes de shalom bayit, contre tous les problèmes d'éducation. Toutes les choses qui sont mauvaises dans ce monde-là, c'est la Torah et les mitzvahs qui nous protègent de ça. La dernière chose, on arrive à Simchat Torah et à Shmini Atzeret. Rabotai, Shmini Atzeret, c'est un jour où Akadosh Baruch Hu, il a ajouté un jour de plus. On sait que Shmini Atzeret, c'est un jour que normalement il y avait un certain nombre de jours pour Sukkot, et on devait terminer. Machal Lema Davar Domeh nous dit, c'est une allégorie. Ça ressemble à un roi qui avait convoqué tous les partisans de son royaume. Il a fait des sept jours de festivités magnifiques, très fastes, avec beaucoup de le foie gras, le caviar. Je ne me rappelle même plus, parce que ça fait longtemps que je n'en ai pas mangé de ces chouillottes là-bas. Moi, je mange du shawarma, je suis heureux. Même parfois, je mange du pain avec du beurre et tout ça, c'est magnifique. Les crisprolles, c'est tout ça, même je suis capable d'en manger maintenant. Alors que jamais j'aurais pu en manger une chose pareille. Quand j'étais dans le Lamazé, il fallait bien manger. Maintenant, qu'est-ce qu'on a à faire de ça? Tu bois de l'eau et t'es heureux. Tu bois un petit jus de grenade, qui mieux que toi? C'est plus que tout. Alors tu comprends? Toi, tu viens, et à Kadosh Baruch Hu, il nous avait fait des choses magnifiques. Pendant une semaine, des repas magnifiques et majestueux. Mais on sait que pendant cette fête de Sukkot, les Bnei Israël, ils apportaient les korbanot, chaque jour, 70 korbanot pour apporter les 70 nations. Ça veut dire que la fête de Sukkot, c'est une fête qui est à la fois pour les Bnei Israël et à la fois pour les 70 nations. Le dernier jour, ce roi qui avait invité tous les membres de sa famille et tous les gens, tous les dignitaires et tous les sujets du royaume, il a vu les membres de sa famille là-bas qui étaient là-bas. Il dit, ah, Habibi, j'ai même pas eu le temps de te dire bonjour et tout ça, comment tu vas, comment tu me manques, ça me est difficile. Il dit, Akadosh Baruch Hu, il dit, ce roi-là, à ses sujets, à ses membres de sa famille, caché Allah, il périt d'atrem. Il m'est difficile de me séparer de vous, j'ai pas pu profiter parce qu'il y avait tellement de fastes, tellement de gens, qu'on n'a pas pu passer un moment privilégié entre nous. Faites encore un jour de festivité, on va renvoyer tous les peuples, toutes les nations, tous les gens et tous les gens qui sont à l'étranger de la famille, et on va vivre dans l'intimité la plus absolue, la plus totale, on va vivre entre nous. En bout de temps, c'est Shmini Atzeret. Un jour, Akadosh Baruch Hu, il a rajouté, il a renvoyé toutes les nations, il n'a fait rester que les Bnei Israël qui sont ses enfants avec lui, et là, on va vivre véritablement un moment de singularité et de promiscuité extraordinaire. Pourquoi? Parce qu'Akadosh Baruch Hu, il dit, caché Allah, il périt d'Atzeret, il m'est difficile, mes enfants, de me séparer de vous. Écoutez bien la question du Magid de Douvna. S'il y en a qui n'est pas tombé encore depuis le début du shiur, c'est à ce moment-là qu'il doit tomber. N'hésitez pas à tomber, ça va vous faire du bien. Bien sûr, le Magid de Douvna, il demande une question. Imaginons un bachour, un tzadik, il est venu de la yeshiva, avec sa mère, ou par exemple il était au Tibet, tout ça, le type, Haltanta. Il arrive après 6 mois qu'il n'a pas vu sa mère, il reste avec elle pendant une semaine. Sa mère, elle lui dit, mon fils, tu sais, ça m'est vraiment difficile de me séparer de toi. Je t'en prie, mon fils, ne pars pas aujourd'hui. On va rester encore une journée, on va profiter à fond. Et demain, tu vas partir, ça ira beaucoup mieux. Le Magid de Douvna, il dit, c'est pas logique ce qu'Akadosh Baruch Hu dit. Il dit, si jamais tu passes cette journée de plus, tu vas encore plus t'attacher à ton fils. Et si tu t'attaches plus à sa lui, alors ça va être plus facile pour toi de te séparer de lui. Qu'est-ce que c'est ça? Vous avez pressé cette question du Magid de Douvna. Je vous dis, on pourra se faire des danses folkloriques après. C'est pas logique, tu vois, on comprend pas cette chose-là. Alors maintenant que tu as compris que c'était pas logique, quand je vais te dire la réponse, tu vas danser de joie. Je t'avais dit, mais il faut d'abord sentir que c'est pas logique, après tu écoutez la réponse. Un sadique qui s'appelle Rav David Berchechat, il m'a dit un pshat, mais moi j'ai trouvé un autre pshat qui est encore plus extraordinaire. Et écoutez bien ce pshat. Le dernier, on sait que pendant toute cette période, on a dit qu'on faisait le plein de spiritualité, on s'emplissait de toute la lumière d'Hachem. C'est ça toute cette période de Tishri. Rosh Hashanah, Kippour. C'est un marché dans lequel on peut acquérir des forces qui vont nous permettre de tenir pendant toute l'année. Toutes les épreuves qu'on aura par le mérite de toutes ces kohot qu'on a emmagasinées pendant ce temps-là, on pourra mériter de traverser toutes ces choses-là. Maintenant, quand il y a eu beaucoup de fastes et beaucoup de fêtes et qu'il y avait des nations aussi, c'était difficile pour nous de faire le réservoir et le plein. À Kadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il t'a dit? Hachem, il t'a dit, Rabbi, maintenant tu vas venir et je vais te donner la faculté et la possibilité et tu vas prendre conscience de ça, que tu vas être seul avec moi et que je vais pouvoir t'incendier et t'irradier de toute la lumière et de toutes les corodes et tous les chargements et les chargeurs Nokia là-bas. Tu t'es branché là-bas en ADSL, connexion illimitée. Toutes les choses qu'il te faut pour être proche d'Akadol Baruch Hu pendant toute l'année, je vais te les donner. Alors le gars, il arrive à Ashmina Tseret, il se dit, mais voilà, maintenant je suis qu'avec Akadash Baruch Hu, et ça, il vit intensément ce moment-là. Il se dit, combien je peux m'emplir de cette chose-là? Et Akadash Baruch Hu, il dit, c'est difficile de me séparer de vous à ce moment-là, parce que je sens qu'on n'a pas assez profité. Ça veut dire quoi qu'on n'a pas assez profité? Vous n'êtes pas assez, vous n'êtes pas assez empli de ma lumière. Vous n'êtes pas assez empli de ma proximité, de mon shefa, de la rouhanie, de toute l'abondance que je voulais déverser. Qu'on fasse un dernier jour de festin où vous allez être seul avec moi. Et vous allez prendre conscience de la joie et de la simcha extraordinaire que vous avez d'être avec moi. Et là, à ce moment-là, vous allez pouvoir vous emplir de toute cette lumière extraordinaire. Et à ce moment-là, quand je vais me séparer de vous, que je vais remonter à Kadosh Baruch Hu après les 40 jours qu'on a passé avec lui, les 51 jours même, de Rosh Chodesh et Loul jusqu'à Hoshana Rabba, c'est 51 jours. Ouais, c'est pour ça qu'on Hoshana. Na, c'est la gematria, c'est la valeur numérique de 51. Il dit à Kadosh Baruch Hu, il remonte dans le ciel. Il retourne. Il s'éloigne un petit peu naturellement, un peu plus que ce qu'il est beaucoup plus proche de nous pendant toute cette période. Akadosh Baruch Hu dit, j'ai pas envie de m'éloigner de vous. Et il te dit, Akadosh Baruch Hu, je vais vous donner le plein et le maximum, je vais vous remplir le plein pendant cette journée. Et si jamais vous vous remplissez de toutes les choses qu'il faut pour être proche de moi, même si jamais je m'éloigne de vous, mais vous serez toujours proche de moi parce que vous êtes tellement empli de cette lumière, vous avez tellement fait le plein dans ce réservoir, que même si jamais je suis loin, mais vous serez toujours à côté de moi, et Akadosh Baruch Hu, il peut partir avec moins de difficultés, parce qu'il sait que par le mérite de ces dernières journées, on a fait le plein tellement magnifique et tellement merveilleux. Et ce plein-là, il passe par quoi? Il passe par le fait que toi, tu vas te souvenir. Comment tu vas faire quand Akadosh Baruch Hu va monter? C'était vrai, on a passé des moments tellement merveilleux, ça, mais tu vas te rappeler de ces jours de réjouissance où tu as dansé avec la Torah. Aoudai Simcha Torah. C'est concomitant avec Shmina Tseret. C'est quoi Simcha Torah? Simcha Torah, tu te réjouis de la Torah. Tu danses avec cette Torah Kdosha. Toute l'année, tu as étudié la Torah, tu t'es réchauffé le cœur. Vous, comme des tzadikim, vous êtes venus étudier. Malgré le fait que vous avez des occupations, vous avez des journées difficiles, vous êtes venus vous remplir de la lumière de la Torah Kdosha. Shrechem, Shrechem, Kechem. Vous êtes des tzadikim sur lesquels le monde y repose. Chaque fois qu'il y a un enfant d'Israël et une tzadikah d'Israël qui fait des efforts dans la Torah, dans la Tzniut, dans la Messirut Nefesh, dans le Chesed, dans toutes les mitzvot, Rabotai, c'est sur lui que le monde y repose. Il dit, toi, tu as étudié, ben, le jour de Simcha Torah, tu vas te réjouir de toute cette lumière de la Torah. Je vous dis, comme moi, j'ai envie de danser quand je dis ces Shridushim, j'ai envie de danser Kipshudo parce que la Torah, elle est méchaïe aussi. Elle me fait vivre. Il dit, le gars, il a étudié toute l'année. Il va voir comment c'est magnifique de danser avec la Torah. Quand il va danser avec la Torah, il va atteindre ce que Rabbi Eliezer ben Dourdaya, ce que Yosef Meshita, ils ont vu, cette proximité avec Akadosh Baruch Hu. Et là, à ce moment-là, quand il se souviendra de ce moment de Simcha et de joie intense et unique qu'il a vécu, chaque fois qu'il aura des épreuves, il se rappellera. Tu te rappelles quand j'ai dansé avec la Torah? Il n'y avait rien d'autre. Regarde, j'avais aucun souci, j'avais pas le problème de parnassa à ce moment-là. Je ne pensais pas à la parnassa, je ne pensais pas aux problèmes de santé, je ne pensais pas aux problèmes de quoi que ce soit. Je pensais qu'à Kadosh Baruch Hu, je voyais que le fait d'être proche d'Hachem, c'est ça qui résout tous les problèmes de ma vie. Rabotai, si jamais, qu'est-ce qu'on doit sentir à Rosh Hashanah? C'est un de mes camarades d'études, mon compagnon d'études qui viendra, Bezrat Hashem, vous donner un shiur bientôt, par Emmanuel Mimran qui m'avait dit ça, je crois. Quelque chose de magnifique. Quelqu'un, qu'est-ce qu'il doit penser le jour de Simcha Torah quand il danse avec la Torah? Imaginez-vous quelqu'un qui avait il y avait des maladies qui avaient commencé dans le monde, qui étaient en train de décimer toute la population et toute la communauté. Rahman al-Islam, il nous protège tous. Il y avait des épidémies terribles. Les gens, ils mouraient les uns après les autres. Tout à coup, il y a un type qui est arrivé là-bas, du fin fond du monde, avec un remède. Imaginez-vous la joie extraordinaire que quelqu'un il peut avoir au moment où il découvre ce remède. Mais il devient maboul, il devient fou de joie, c'est merveilleux pour lui. Rabotai, Barati et Tserara et Barati Toratavlin. La Gemara dans Masechet Kiddushin à la page 30, folio B, nous dit, j'ai créé le Yetzera et comme remède, j'ai créé la Torah. Le Yetzera, Rabotai, c'est la racine de tous les maux du monde. C'est ce qui nous pose des problèmes dans notre couple. C'est ce qui nous pose des problèmes pour ne pas nous marier. C'est ce qui nous pose des problèmes dans notre parnassa. C'est ce qui nous pose des problèmes de tristesse, des problèmes de santé, des problèmes de toutes sortes de choses. C'est ce Yetzera qui vient semer le trouble dans le monde. Barati et Sera, Barati Torah Tavlin, Akadosh Baruch Hu, il est venu, il t'a donné la Torah Kdosha, c'est ton remède. C'est ton remède, Habibi, c'est le seul remède que tu as. Si jamais tu savais que tu avais une maladie incurable qui s'appelle Yetzera, que tu avais découvert le plus beau remède, est-ce que tu danserais pas sur ta tête? Tu ferais pas du smurf à la manière de Eddie Murphy? Vous vous rappelez de lui, c'est Marmoud là-bas? Tu ferais des cabrioles, des retournées acrobatiques, tu deviendrais fou. Rabotai, c'est ce que tu dois sentir le jour de Simcha Torah. Le jour de Simcha Torah, tu dois sentir, regarde combien je suis sa mère d'être avec la Torah Kdosha. Qui aime Chayenu Verech Yamenu, c'est la Torah, c'est ma vie et la longévité de mes jours. C'est ça qui lutte contre tous les fléaux et toutes les mauvaises choses du monde. C'est ce qui me permet de ne pas avoir de gava, de travailler sur mon orgueil, de travailler sur mon égoïsme, de travailler sur ma colère, de travailler sur le fait que j'ai pas envie d'aider ma femme. La Torah, elle va me dire que tu dois aider ta femme, tu dois t'occuper de tes enfants, tu dois fermer sur Rout Nefesh pour eux. T'as des talmides, des chachamim, des tzadikim qui viennent te dire des drachot, qui te renforcent. Rabotaï, sans mes rabbanim, je serais de la poussière et de la cendre. Je serais de la poussière et de la cendre. Je me dis, j'aurais pu me retrouver à l'ONU là-bas avec Kofi Annan et les siens, comme un marboule et tout ça. Mais j'aurais été une chèvre, j'aurais été un. Je vois sans la Torah, j'aurais rien été. Baruch HaShem, aujourd'hui je suis encore moins que rien, mais au moins le fait que j'ai compris que je suis encore moins que rien, peut-être qu'un jour je pourrais devenir quelque chose. Mais quand t'es loin de la Torah, tu crois que t'es quelque chose, mais quand tu t'approches de la Torah, tu vois que t'es qu'une goutte dans l'océan. Qu'est-ce que tu vas commencer à juger l'autre? Qu'est-ce que tu vas commencer à le dominer? Qu'est-ce que tu vas commencer à lui mal lui parler? Aime chacun, aide chacun, renforce-le, fais-lui partager la lumière qui t'anime, fais-lui partager la foi qui t'anime, rends-lui le monde meilleur. Dans Bouddha, j'ai des milliers de personnes qui sont autour de moi. Chaque jour, je reçois des questions des gens. Je vois qu'on peut aider des personnes. On collecte parfois des fonds pour des personnes qui sont en difficulté. Tout ça, on les aide, on est mechayotam. Il n'y a plus belle chose que ça. C'est l'élixir de vie, c'est la Torah. Tu as découvert l'élixir de vie. Est-ce que tu ne dois pas danser? Tu ne dois pas être fou de joie. Et une fois que tu as dansé ce jour-là et que tu t'es réjoui, parce que tu as vu que cette proximité avec Akadosh Baruch Hu, c'est ça qui t'a donné cette grande joie et cette grande simcha. Tu as vu que c'est quoi d'être avec Akadosh Baruch Hu? C'est la Torah. La Torah, c'est ce qui me rapproche d'Akadosh Baruch Hu. Et bien toute l'année, quand tu auras quoi que ce soit qui t'arrivera, tu te souviendras de ce jour-là. Barati et Tsera, Barati Torah ta vie. Voilà. Je n'étais pas forcément heureux, j'ai pris la Torah, j'ai vu comment cette Torah m'a apporté la sérénité, la plénitude et la joie de vivre. Et bien il ne faudra plus jamais que je me sépare de cette Torah. C'est pour ça, Rabotaï, que ce chiour il s'appelle Je veux vivre avec Hachem pour l'éternité. Quand on sent qu'on est avec Akadosh Baruch Hu, on est les plus riches du monde. Rabotaï, c'est l'héritage que j'ai reçu de ma famille. C'est l'héritage que j'ai vu de mon père à la Vachalom, que quand il était dans les plus grandes épreuves et les plus grandes difficultés de sa vie, il a fait tchouva, il s'est rapproché d'Akadosh Baruch Hu, il était impénétrable. Il n'y avait rien qui pouvait le perturber. Moi, j'ai consacré ma vie à la Torah pour le sauver. J'étais à l'université et tout ça. Ils ont découvert une maladie. Il a dit qu'il devait vivre pendant 6 mois. J'ai dit, puisque c'est comme ça, moi, je vais consacrer ma vie à la Torah. Je vais consacrer ma vie à Kadosh Baruch Hu et on verra qui c'est qui aura le dernier mot. Il a vécu pendant 6 ans. Rabotaï, les médecins du monde entier, ils disaient, on ne comprend pas comment c'est possible qu'un homme il soit capable de vivre comme ça. Comment c'est possible? D'après les lois de la nature, il ne peut pas. Il dit, Habibi, on connaît des docteurs que tu connais pas, c'est le Rofé Cholam Israël, c'est le médecin de tous les médecins du monde, c'est le patron de tous les patrons, c'est Hachem Yitbarach. Et mon père, je vous dis comment il faisait Torah Bemesirut Nefesh et Besimcha. Il avait des douleurs dans tout son corps avec sa maladie. Il se levait à des heures très, très, de très bonne heure, alors qu'il ne dormait pas de la nuit. Parfois, il allait à la tfila, il allait faire le kadish pour sa mère qu'il avait perdu dans l'année, tout ça. Le jour de Kippour, alors qu'il avait des douleurs terribles, il n'avait pas dormi de la nuit, on n'avait pas voulu le réveiller, tout ça. On va là-bas, on le voit déjà avec son cravate, avec son costume, il est resté debout pendant toute la journée comme un malard. Et Rabotaï, tu le voyais, c'était une source de lumière tellement merveilleuse et tellement magnifique. Il était tellement heureux et tellement joyeux de servir à Kadosh Baruch Hu dans toutes les situations de la vie. Il disait à la fin de sa vie, c'est marqué dans le livre à chaque fois, et je finis chaque paracha, je finis en racontant une petite histoire de sa vie. Il disait, quand je sens que je suis avec Akadosh Baruch Hu, j'ai des forces surnaturelles. Quand je sens que j'ai un fils qui étudie la Torah et qui est à la yeshiva, je suis le plus grand milliardaire du monde. C'est ça la richesse, c'est ça la joie. Et Baruch HaShem, il a eu le sroud de résider à Bnei Brak, on l'a amené à Bnei Brak dans le cimetière des Tzadikim. Et les rabbins, ils ont dit sur lui, je connais Olamu Bechahat, il a atteint des degrés que les grands Tzadikim de la génération, ils ont atteint. De pouvoir sanctifier le nom d'Akadosh Baruch Hu et de dire à chacun, Rabotaï, on est porteur de la lumière de la Torah, on est les plus riches du monde. Quand tu es dans l'épreuve, tu es crédible parce que tu te dis, mais le gars il peut tout abandonner, il peut tout se tourner et tout abandonner. Dis-quoi, moi j'ai fait tchouva et c'est comme ça qu'on me traite. Je suis entre les mains d'Hachem, Hachem lui-même, c'est mon Dieu. Tout ce qu'il décide pour moi, c'est le mieux. Rabotaï, c'est ça le sens de ces fêtes. Bezrat Hachem, qu'on soit méritant, qu'Akadosh Baruch Hu fasse que cette lumière elle puisse briller dans nos cœurs et dans nos vies, et que Bisroudze, tous les frères du Ham Israël, ils reviennent Bitchouva chez les mains, et qu'on puisse voir le Beth Amikdash et la reconstruction du Beth Amikdash avec le Mashiach. Bimera, Biamenu, Amen.